Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 25 mars 1998, rediffusée dimanche 6 décembre 2009 dans la nuit de 2h à 5h. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la résistance, bonsoir. Mesdames et messieurs les collabos, accrochez-vous au bastingage, la tempête souffle. Moi, je suis très content. Je suis très très content de ce qui se passe. Et je vais m'expliquer, mais avant je vous donne... Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que c'est, ce bruit que vous venez d'entendre? C'est Mémé qui a fermé son sac à main. C'est la fermeture à glissière du sac à main de Mémé.
De Bernadette. C'est pas que nous avons invité pour la circonstance.
C'est pas croyable, Mémé.
Arrêtez, soyez sérieux.
Bon, alors je disais donc, les invités de ce soir, je le détends un peu parce qu'après on va tomber dans le sérieux, ce strict.
Strict tout ça. Dans le grave.
Dans le grave. Monsieur Bruno Gollnisch, qui est...
secrétaire général.
Non. Délégué général du Front.
Il ne saura jamais.
Si vous vous y mettez aussi, alors...
Il ne saura jamais.
Secrétaire général du Front National. Voilà. Mais il n'y a pas de sous-métier.
Mais surtout, c'est surtout à Lyon que je faisais allusion. Donc, président du groupe Front National au
Conseil régional Rhône-Alpes.
Voilà. Et puis député européen. Et puis toutes ces sortes de choses. De quoi va-t-on parler avec Bruno Gollnisch? On verra l'inspiration du moment. On trouvera bien un sujet.
Hein, oui, peut-être dans l'actualité.
Oui, c'est tout. Avec l'abbé Cellier, ensuite, l'abbé Grégoire Cellier, on parlera d'un livre tout à fait passionnant qui s'appelle La blessure, et non pas La déchirure, que je l'ai écrit sur mon petit papier, parce que je suis idiot. La blessure, c'est le témoignage d'un... séminariste qui dans les années 60 a vu le Titanic de l'église conciliaire s'enfoncer
dans les eaux.
Ensuite on recevra brièvement Stéphane de Côte-Parquet qui nous fera un petit point rapide sur la situation de son initiative qui s'appelle Pactum, vous connaissez certainement, oui. Monsieur l'abbé. Et dans la deuxième partie de l'émission, puisque nous resterons 3 heures ensemble, je recevrai Alexis Sarrette pour son livre « Les dieux du crépuscule » et nous parlerons, non pas tellement de ce livre, mais autour de ce livre, d'une question qui est particulièrement importante et intéressante, je crois, et que j'ai résumé de façon artificielle, comme toujours, parce que tous les résumés sont forcément artificiels, « Monde invisible et monde visible », c'est-à-dire en quoi on peut considérer que ce qui se passe dans la réalité visible, dans la réalité tangible, dans le monde matériel, est d'une certaine manière le reflet de ce qui se passe dans le monde de l'invisible, dans le monde d'en haut, et comment se manifeste cet échange. Ce qu'on dira sera beaucoup plus intéressant que ce que je viens de dire là. Parce que là, ce que je viens de dire, c'est vraiment nul. Mais quand vous aurez entendu les autres invités, à savoir François Plantet et Éric Lebec, et j'espère que Monsieur l'abbé pourra rester avec nous, puisque c'est un sujet qui le concerne quelque part, comme on dit.
Oui, au niveau du vécu.
Au niveau de votre vécu, bon, c'est bien. Parce que Monsieur l'abbé, je rappelle, est quand même l'auteur aussi d'un livre de philosophie qui s'appelle « La mort du Dieu ». Non, c'est pas celui-là. Le dieu mortel. Je suis très très bon, hein, ça. Je démarre très fort. Le dieu mortel. En pourtant, je l'ai lu, mais il y a déjà longtemps, il y a au moins 2 ans.
Voilà, mais il est toujours temps de le relire.
Et puis, on recevra pour finir, mais brièvement, Marie-Alix d'Outrebande, qui nous fera un petit point sur la prochaine conférence sur le Saint-Suaire, qui va se tenir à Paris le 30 mars, je crois, c'est ça,
non ? 30 mars.
Sûrement, oui. Oui, non,
le 30 mars, c'est ça.
Mais je disais que j'étais content de ce qui se passe parce que ça fait des années que je le dis, ce qu'il faut penser de l'homme qui occupe actuellement les plus hautes fonctions de l'État. Enfin, qui occupe la place, en tout cas. Ça, il n'y a pas de discussion. Et donc, on a la confirmation de ce que j'ai écrit dans le Libre Journal. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander d'ailleurs un exemplaire du Libre Journal. Je vous y invite pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un bon journal. Ensuite, parce qu'on a vraiment de grosses difficultés en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les citoyens se désintéressent de l'actualité politique? C'est bizarre. Est-ce qu'ils en sont saturés? En tout cas, on a de grosses difficultés. Et donc, on a besoin que nos lecteurs, nos abonnés se réabonnent, que ceux qui ne sont pas encore abonnés s'abonnent, que ceux qui ne connaissent pas le journal le découvrent. Et donc, si vous envoyez quelques timbres, on vous enverra un exemplaire du journal. Vous pourrez découvrir à quel point il est merveilleux.
C'est vrai.
Merci.
C'est vrai, c'est vrai.
Je jetais un coup d'œil désespéré sur Bruno Gluny.
Non, il est bien présenté, il est agréable à lire, il est impertinent, ce qui n'étonnera personne.
Il y a un excellent dessinateur, d'ailleurs.
Il y a un très très bon dessinateur qui s'appelle Ignace.
C'est vrai.
Et qui a été révélé aux foules éblouies par le Chardonnay, qui a été le premier journal, le Chardonnay, qui est, comme son nom l'indique, le journal paroissial de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, qui a donc publié le premier des dessins d'Ignace, et ils sont vraiment excellents. Il y a un très beau trait, c'est la ligne claire française. Donc je disais, ça fait longtemps que je dis dans le livre journal que le président de la République donnait des signes inquiétants de dérangement mental. On en a des preuves surabondantes. Je me suis permis de demander à quelques amis spécialistes de ces questions d'établir des diagnostics à distance, ce qui n'est pas très très fiable devant un tribunal, mais entre amis, on peut quand même constater qu'il y a une gestuelle, il y a un discours, il y a une façon de s'exprimer, il y a un regard, il y a une façon d'avoir de se déplacer, de gesticuler, qui quand même marque certaines tendances. Et je me souviens récemment d'avoir vu, par exemple, un spectacle assez inquiétant. C'était l'intéressé qui se rendait en compagnie du Premier ministre à une réunion européenne. Et pendant que le Premier ministre bavardait avec son homologue britannique, l'intéressé, lui, avançait nez au vent. C'était vraiment le bonnet de service. Et nez au vent, il saluait tout content de lui, la foule qui applaudissait. Et il y avait une espèce de dimension assez tragique dans l'air ravi, au sens de la crèche du personnage. Mais il faut pas s'y tromper, c'est un ravi méchant, on vient d'en avoir la preuve. Et cette preuve est satisfaisante parce que c'est ce qu'on appelle un dévoilement. Or, les dévoilements sont toujours des bonnes choses parce que ça réveille l'attention, ça éveille l'attention. Et je suis particulièrement content du discours de lundi soir parce qu'il va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est ce que je dis, il a dévoilé quelque chose que je répète depuis longtemps et qui, à mon avis, d'ailleurs, devrait se démontrer d'une façon encore plus éclatante dans les semaines qui vont venir. Je pense qu'on va vers des événements extrêmement graves parce que, sauf erreur de ma part, ouragan sur Damon Kane ou le commandant du bateau qui s'appelait le capitaine Quake était également, lui, quelqu'un d'un petit peu fatigué, qui jouait avec ses bibilles dans sa poche, ça a failli finir par une tragédie. Donc on n'échappe pas à la tragédie quand le bateau est dirigé de cette manière-là. Mais enfin, on aura le temps de voir. En tout cas, ça, maintenant, c'est clair. Il y a une autre chose qui est tout à fait claire, c'est dans le propos du président de la République, dans le discours, il a été plusieurs fois question, comme le fait remarquer Jean Madiran dans « Présent hier », il a été plusieurs fois question d'engagement pris. Le président de la République a dit « Nous avons pris des engagements de ne jamais nous associer avec le Front National. Ces engagements ont été pris à plusieurs reprises. Ces engagements doivent être tenus. » Alors, si on se réfère à l'actualité politique, on est obligé de dire que la dernière fois que ces mots d'engagement a été employé, c'est le 26 mars 1986, vous voyez que c'est pas d'hier, dans Le Monde a publié un communiqué d'une loge maçonnique qui s'appelle les Bnei Brit, d'une obédience maçonnique qui s'appelle les Bnei Brit, et qui disait la chose suivante, les Naïbrit rappellent aux partis vainqueurs des élections de 86, c'est-à-dire l'UDF et le RPR, les engagements pris devant la communauté lors des forums des Naïbrit de ne s'associer en aucun cas au Front National. Ces engagements étaient pris par les dirigeants des mouvements de ce qu'on appelait la droite à l'époque, c'est-à-dire l'espèce de conglomérat capitalo-marxiste qui, à l'heure actuelle, se partage le pouvoir. Et ces engagements ont été répétés. Ce qui est intéressant, c'est que ces engagements ont été pris par Madelin, lequel Madelin a été d'abord le premier à féliciter les élus, les présidents de région élus grâce à l'appoint des élus du Front National. Et ensuite, pas plus tard qu'aujourd'hui, il est revenu sur ses félicitations pour demander aux 10 élus de bien vouloir démissionner. Ce qui veut dire que quelqu'un est allé chercher M. Madelin par le bout de l'oreille et lui a tiré les oreilles en lui disant « il fallait pas faire ça, maintenant il faut dire le contraire ». M. Madelin a dit le contraire. On parlera de tout ça naturellement avec Bruno Gollnisch tout à l'heure. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que ce discours de lundi, c'est l'hommage du vice à la vertu. Si vous lisez la presse en ce moment, vous verrez que de plus en plus les investigations sur les affaires, sur les scandales, sur les HLM se rapprochent du point nodal de la vie politico-judiciaire française depuis des années. C'était comme ça avec Mitterrand et apparemment ça continue. Ce point nodal, c'est l'Élysée. Donc on est en présence d'un homme qui est à la fois extrêmement fatigué sur le plan intellectuel, qui est gravement menacé sur le plan de sa réputation et qui a besoin d'appui. Il est évident que ces appuis, il ne pourra pas les trouver s'il ne désigne pas clairement un ennemi commun à ceux avec dont il voudrait recevoir l'appui. Donc c'est l'hommage du vice à la vertu, c'est un hommage rendu à la force du Front National, puisque c'est quand même extraordinaire quand on pense que le président de la République n'hésite pas à mobiliser les médias par surprise à l'heure de la plus grande écoute de ces médias, c'est-à-dire à 20h, pour dénoncer quelqu'un qui, après tout, ne représente que 15% de l'électorat. C'est-à-dire que il a contre lui ce mouvement 85% de l'édifice républicain, donc il ne devrait pas être si redoutable que ça pour que le président de la République se croit obligé de se déranger pour le condamner. C'est d'autre part un hommage rendu à notre résistance, enfin à la résistance du Front National, puisque là on est dans une circonstance où véritablement jamais le mot de résistance n'a été mieux venu, puisque c'est un petit groupe face à un grand groupe qui occupe tous les rouages de l'État, toutes les positions, et donc cet État, l'État au sens métaphysique du terme, en quelque sorte, se mobilise contre ce petit groupe. Et c'est aussi, si on veut bien considérer l'importance relative des forces en présence, c'est aussi un témoignage de victoire extraordinaire. Parce que certains amis me disent, mais oui, le Front National ne bouge pas depuis des années, il a le même pourcentage de voix. Ça prouve qu'il y a un blocage. Moi, je réponds à ça. Ça fait des années que, malgré un bombardement médiatique sans exemple, sans comparaison aucune dans l'histoire de France, alors que le Front National et ses élus et ses sympathisants et ses militants ont été traités de toutes les manières possibles et imaginables, comme les pires crapules. Ils ont été matraqués, ils ont été menacés, ils ont été insultés, ils ont été traînés devant la justice. On a publié sur eux dans la presse pourrie des accusations ignobles. Je me souviens de certains papiers sur Jean-Marie Le Pen qui dépassaient ce qu'on peut imaginer. Mais bien malgré tout, ce peuple français qui est en permanence confronté à des médias qui insultent le Front National, à des syndicats qu'ils combattent, à des instituteurs, à des curés, bien sûr, sauf les personnes présentes, à tout le système du pays est contre le Front National et dénonce le Front National, mais le Front National reste quand même, il passe, non seulement il reste, mais il augmente son pourcentage, sa représentation dans le pays. Ça veut dire qu'il y a encore une force de résistance dans ce pays. Donc, je pense que tout ça est tout à fait positif. Ce qui est encore plus positif, à mon sens, c'est que, enfin, on en a fini avec cette balançoire qui consistait à dire « c'est de votre faute à vous, les nationalistes, si la gauche est au pouvoir ». Maintenant, on sait que si la gauche est au pouvoir, c'est pas de notre faute. Au contraire, c'est contre nous et que les gens qui pensaient que voter Front National, c'était en quelque sorte faire accéder la gauche à la majorité alors qu'elle ne détenait pas la majorité des suffrages, maintenant on a la preuve du contraire. Et je voudrais par conséquent dédier cette émission, l'émission de ce soir, d'une part aux militants du Front National parce qu'ils ont fait preuve d'un, ils font preuve de plus en plus d'un courage magnifique, et puis d'autre part, paradoxalement, à tous ceux qui depuis des années nous disent il faut l'union à gauche, il faut l'union des droites ou l'union à droite. Voilà, là on a essayé, je crois de très bonne foi, je crois que Jean-Marie Le Pen a essayé et tous les élus du Front National ont essayé de faire cette union à droite. Ils ont de bonne foi proposé de faire obstacle aux communistes et aux socialistes et aux trotskistes barbouillés en vert. Et maintenant, on a la réponse. Le système, la nébuleuse capitalo-marxiste veut se partager le pouvoir et exclure les nationaux de toutes les instances du pouvoir. Il veut les exclure, et c'est déjà fait par le président de la République, il veut les exclure de la République. Personnellement, moi, ça me gêne pas. Je suis pas républicain ni démocrate, donc ça me gêne pas d'être exclu d'un système dont je fais pas partie. Mais je sais qu'il y a des citoyens, des nationalistes qui sont réellement choqués de cette situation. Et puis, la dernière chose que je dois dire, après je donnerai la parole à Bruno, c'est que il y a quand même un gag formidable, c'est que si on pousse la démonstration jusqu'au bout, eh bien, on est obligé de dire que Chirac doit démissionner. Parce qu'il suffit de regarder les comptes des dernières présidentielles. Jacques Chirac a été élu grâce à la pointe des voix du Front National au deuxième tour. Par conséquent, c'est aussi, il est aussi coupable que Millon. Et à mon avis, il ne peut pas rester à son poste. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons médicales, accessoirement. Mais essentiellement là, pour les raisons que lui-même vient de dicter. À savoir qu'on ne peut pas continuer à gérer une région si on doit son pouvoir aux voix du Front National. Alors a fortiori la France. Parce que véritablement, je le rappelle, le regard de l'étranger étant posé sur nous, vis-à-vis de l'étranger, parce que c'était un des grands arguments du truc, ça. Que pense l'étranger? Personnellement, je me fous absolument de savoir ce que pense l'étranger, mais Chirac, ça paraît le travailler. D'ailleurs, évidemment, ça le travaille, on le sait depuis longtemps. Donc Chirac doit démissionner. Alors en attendant, on va faire comme s'il était toujours président de la République, et on va parler avec Bruno Gollnisch de la situation en général, et puis spécialement à Lyon, parce que ça me paraît quand même une situation particulièrement amusante, celle de Lyon.
Oui, je crois en effet que le président de la République est un homme sous influence. Ça, c'est absolument manifeste. La déclaration qu'il a faite est mensongère, indécente. Elle commence d'ailleurs par un aveu, puisqu'il déclare lui-même qu'il sort de la réserve qu'il devrait observer, en pareille circonstance. Il s'agit d'élections locales, il s'agit d'un scrutin proportionnel dont on prétend d'ailleurs tout à fait à tort qu'il rend les régions ingouvernables. Il ne rend les régions ingouvernables que si l'on ne veut pas tenir compte du scrutin. Et voilà, si c'est un scrutin qui a des inconvénients et des avantages comme tous les modes de scrutin, mais qui a au moins un avantage, c'est qu'il représente exactement toutes les forces politiques, l'état de l'opinion, ce qui est le principe de la représentativité, après tout. L'on entend d'un bout à l'autre du système des voix qui s'écrient « Mais quelle horreur, où va-t-on si l'on donne la parole au peuple et finalement si l'on élit des gens qui représentent exactement l'opinion des citoyens ?» Et je crois que, vous l'avez dit, la démarche est assez claire. Nous avons, par la bouche de notre président, je fais tout de suite litière des légendes effarantes qui ont été racontées sur le mécanisme de prise de décision. Nous étions tous parfaitement d'accord. Nous avons posé un certain nombre de conditions minimales tirées de notre conception du bien commun à l'échelon local, qui pouvait permettre à la fois une nouvelle donne sur les régions et puis de faire obstacle à la prise du pouvoir dans ces régions par des coalitions qui sont minoritaires. Dans la région Rhône-Alpes, par exemple, il y a très exactement 157 conseillers régionaux. J'ai jamais été très fort en arithmétique. Je crois que la majorité doit être de 79. Et les deux groupes, la coalition que dirige M. Millon, comportait 61 voix. Depuis, il y a eu un certain nombre de défections, il est vrai. Et la coalition dirigée par M. Kéran, qui est la coalition socialo-communaux-écolo séparatiste, puisqu'elle comprend un élu, je ne dis pas régionaliste, je dis séparatiste, puisqu'il publie ses communiqués depuis Genève au nom du gouvernement de la Savoie occupé par la France. Lui, c'est un bon républicain.
Manque d'iode.
Voilà. C'est un bon républicain. Et qui, que Monsieur Kéran, ministre des territoires et départements d'outre-mer, donc qui a pour principale fonction de garantir la souveraineté française, l'unité de notre nation, ou notamment outre-mer, trouve tout à fait normal de s'acoquiner avec quelqu'un comme ça. Et alors c'est 61-61, donc si l'on ne tient pas compte du Front National, effectivement, cette assemblée est parfaitement ingouvernable, puisque c'est le partage absolu des voix. Et si nous n'étions pas intervenus, eh bien, M. Kéran l'emportait au bénéfice des 10 jours qui séparent sa naissance de celle de M. Millon. Je veux dire, honnêtement, cela aurait été assez drôle. Et rétrospectivement, je me demande s'il n'eût pas mieux valu que les choses en restent à cela. Mais enfin, nous avons, sur l'engagement pris par M. Millon d'appliquer les 6 points, dont je rappelle que, quand même, par exemple, le premier d'entre eux, c'est de ne plus augmenter l'impôt régional. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir obtenu que quelqu'un qui l'a triplé depuis qu'il est entré en fonction en 88 s'engage à ne plus l'augmenter et même à le diminuer. Et, bon, moi, c'est conforme à l'idée que je me fais du bien commun. Le deuxième engagement, c'est plus de sécurité, se préoccuper essentiellement de la sécurité dans les transports ou les lycées que nous construisons et que nous entretenons. Je crois que ça aussi, tout le monde devrait en être d'accord. Surtout que dans ma région, en Savoie, le drame de la petite Ludivine qui a été assassinée alors qu'elle était en classe de neige montre, s'il en était besoin, à quel point ce problème de la sécurité dans les établissements scolaires se pose. En gros, quelles sont les données du problème. Et puis le reste, vous le savez, c'est l'hystérie. C'est l'hystérie qui s'est emparée de gens, gens de gauche et d'extrême gauche qui se voient frustrés d'une victoire, qui voient leur échapper, qui risquent de voir leur échapper leur proie, celle qu'ils avaient fascinée, qu'ils avaient sidérée, c'est-à-dire la droite parlementaire, et qui voient venir à leur rescousse non seulement effectivement tous les groupes de pression que vous avez cités, mais aussi le plus haut personnage de l'État, qui évidemment au nom de l'amour, de la concorde, de l'entente entre les citoyens, prône une politique d'apartheid scandaleuse à l'égard de millions de ses compatriotes.
Pour revenir pendant une seconde sur le prétendu différent, les prétendus différents qui agiteraient le bureau politique du Front National, je voudrais quand même faire une remarque au passage, c'est-à-dire que les mêmes médias, les mêmes journaux, nous expliquent dans une page que c'est la nuit des longs couteaux 24 heures sur 24, c'est donc la nuit la plus longue de notre histoire, et la plus sombre bien entendu. Maigret poignardant Gollnisch pendant qu'il est en train d'égorger Le Pen, lequel est en train de donner des coups de pied à Samuel Maréchal, qui tente d'étrangler Marcel Bild.
Oui, c'est à peu près ça.
Ah, c'est à peu près
c'est
ça.
C'est pas la réalité, la description qu'en font les journaux.
C'est la description par les journaux. Et moyennant quoi, les mêmes journaux, ça c'est en page 2, et en page 4, les mêmes journaux nous disent, il faut faire attention, c'est un bloc fasciste qui est en train de prendre le pouvoir, ils sont extrêmement dangereux, ils sont unis par la discipline, unis comme au front, par une discipline militaire implacable. Hein, donc il faudrait savoir où c'est les Marx Brothers, où c'est les SA, mais ça peut pas être les deux.
Ça, vous savez très bien quelle est la réalité. La réalité, c'est celle d'un parti d'ordre tempéré par l'anarchie qui fait, hélas, partie de nos traditions nationales.
Je suis absolument certain, d'ailleurs, qu'une des grandes raisons de réjouissance pour beaucoup de Français, parce que les Français, il y a quand même une dimension gauloise dans ce pays.
De moins en moins,
mais enfin, elle reste vivace. Et une des grandes raisons pour lesquelles les Français, finalement, enfin, tant de Français ont trouvé, au fond, que cette situation était plutôt rigolote, c'est parce que c'est une illustration admirable de la loi du bordel maximum. Et quand on voit, quand on en arrive au stade où Monsieur Madelin le vendredi envoie ses félicitations
à des mecs, félicitations personnelles,
téléphone, cher ami, bravo. Et le mercredi, il leur dit bon, maintenant il faut démissionner au nom de la démocratie. Si les Français n'ont pas encore compris qu'on se foutait d'eux ouvertement, il faut qu'ils se réveillent. Quoi. C'est la belle au bois dormant. Alors moi, je trouve ça tout à fait rigolo et sympathique. Alors il y a une chose, Bruno Gollnisch, Millon. pour ne parler, on va parler de lui, puisque c'est celui que vous connaissez, je pense, le mieux, soutient que il y a eu aucun contact, aucune négociation préalable à son élection par les élus du Front National. Or, comme vous le disiez, il a quand même repris les 6 points de exigés par le Front, ce qui voudrait dire qu'il a été convaincu par l'opération du Saint-Esprit, quoi, s'il n'y a pas eu de négociation.
Eh bien, Serge, comme bien que n'étant pas ecclésiastique, comme mon voisin, je me considère comme lié par le secret de la confession. C'est pourquoi je n'aurais rien révélé de nos entretiens si M. Millon lui-même ne m'avait dit, puisque nous en avons discuté dans son bureau, je prendrais moi-même l'initiative de dire à la presse le jour, l'heure et le lieu. Le jour, l'heure et le lieu n'ont d'ailleurs rien de secret. Quand M. Millon dit qu'il n'y a pas eu de tractation secrète, il a parfaitement raison, puisque j'ai passé une heure de discussion approfondie et assez âpre, il faut bien le dire, son bureau 3 jours avant son élection. C'est assez puéril de sa part de prétendre qu'il ne m'a vu que pour régler les problèmes matériels de l'élection, comme il aurait vu son concurrent socialiste. Je ne suis pas revenu de Paris spécialement pour discuter du chauffage ou de l'éclairage dans la salle de... Mais enfin, s'il tente de le faire croire, après tout, c'est évidemment son problème. Non, nous avons discuté de ces 6 points. Il m'a donné l'assurance qu'il figurerait dans son programme, qu'il ne suscitait d'ailleurs de sa part aucune réprobation. Il représente néanmoins un infléchissement très sensible par rapport à la politique suivie jusqu'à présent, et nous avons mis au point, en quelque sorte, le scénario selon lequel je ferai connaître la volonté de notre groupe, c'est-à-dire une espèce de dialogue qui s'instaurerait dans l'Assemblée. C'est ce qui s'est prévu, c'est ce qui s'est passé comme prévu, de façon tout à fait normale et tout à fait naturelle. Je voudrais quand même dire qu'il n'y a là rien d'extravagant. De toute façon, les journalistes, ce qui me sidère, disent toujours, mais quand est-ce que monsieur Untel a pu rencontrer monsieur Untel? Mais moi, je rencontre monsieur Millon, pas tous les jours quand même, mais je le rencontre, cette semaine, je l'ai rencontré 10 fois par jour. Nous nous connions les uns dans les autres, les élus, le Parlement, s'il a précisément une légitimité, à mon avis, c'est que c'est un endroit où l'on se parle. En principe, c'est fait pour
et,
ça.
Et où l'on se ment, d'ailleurs.
Voilà.
D'où le nom.
On se ment. Mais en ce qui me concerne, je vous prie de croire, je dis la vérité.
Oui, ben c'est bien ce qu'on m'en reproche, d'ailleurs. Il y a eu quand même un exemple de la façon dont... Alors, c'est pas le cas de Lyon, je précise. Je donnerai pas l'endroit où ça s'est passé, parce que ça serait indiscret de ma part. Mais il y a une région dans laquelle le président ayant accepté les... Enfin, le futur président ayant accepté les 6 points du Front National, a dit, mais quand même, il faudrait... je ne peux pas les intégrer tels quels, texto, à mon discours, parce que ça deviendrait vraiment trop voyant. Donc, je vais être amené à faire quelques aménagements. Alors, son interlocuteur, qui était le représentant local du Front, a dit non, il n'est pas question de faire le moindre aménagement. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas, puis ça ne se discute pas. Ah, mais quand même, c'est très embêtant. J'aimerais bien apporter un petit aménagement. Alors, écoutez, si vous voulez, dit le candidat en question, faites-moi la proposition vous-même d'aménagement par rapport à vos 6 points. Comme ça, vous serez sûr qu'il n'y aura pas de trahison. Et alors, ça a porté sur le premier point, qui était l'engagement de réduire les dépenses, de réduire la fiscalité pendant la durée du mandat, si bien que le représentant du Front National a dit à la présidence, eh bien, au lieu de dire simplement je m'engage à réduire la fiscalité pendant la durée du mandat, vous direz je m'engage à réduire la fiscalité de 20%. C'était une précision effectivement qui ne figurait pas à l'origine. Et il a signé, le brave homme.
Ouais.
Donc, alors, maintenant, je voudrais vous poser une question, Bruno, parce que c'est des questions qu'on n'évoque jamais.
Oui.
Quel motif, selon vous, peut avoir un homme politique aujourd'hui à vouloir être président d'une région? Alors, faites-nous grâce de l'explication politique que tout le monde connaît, c'est de servir sa région pour le meilleur bien-être des Français et des habitants de sa région. Ça, c'est clair, mais en dehors de ça.
Ben, c'est une collectivité territoriale qui est nouvelle, qui émerge, mal d'ailleurs, en ce sens que les compétences sont complètement enchevêtrées, que très vite les tendances de boulimie fiscale de gaspillage ont été prises dans beaucoup de régions. Mais il y a une tendance qui se dessine, qui est en apparence séduisante, y compris chez certaines personnes de notre famille d'esprit, c'est le thème de l'Europe des régions. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement, et qui tente à prendre dans un étau l'État et la nation, et qui est celui d'une part de l'eurocratie, d'une eurocratie qui a peu de choses à voir avec l'Europe à laquelle nous sommes attachés. Je veux parler de notre civilisation, mais qui est un pouvoir qui, comme tous les pouvoirs, tente à en acquérir chaque jour davantage et qui prétend régenter tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et jusqu'au moindre détail de la vie de plus de 300 millions d'Européens. Et cette eurocratie se rend compte que les nations représentent un obstacle. Et même et surtout, je dirais, les petites nations. Et une nation comme le Danemark peut faire obstacle au traité de Maastricht. Cet obstacle a été levé, mais enfin quand même, ça a failli être le grain de sable qui, les quelques millions de 5 millions d'électeurs danois ont failli être le grain de sable qui paralyse la machine.
Ça a d'ailleurs été la leçon, à mon avis, il n'y aura plus jamais de référendum sur les questions européennes dans aucun pays d'Europe.
L'Irlande s'obstine, pour le moment, elle capitulera certainement, à refuser l'avortement que l'on veut lui imposer au nom de la libre circulation des services, n'est-ce pas ? Bon, mais enfin, l'Irlande résiste pour le moment. Et l'eurocratie se dit que ce serait beaucoup plus commode d'avoir 200 collectivités locales, régionales, qui seraient en position de quémandeurs. Et ce que les Français ne savent pas, c'est que d'ores et déjà, par exemple, toutes les régions de France ont ouvert ce qu'il faut bien appeler de petites ambassades à Bruxelles pour tendre la main et récupérer une partie de l'argent que les contribuables français versent à Bruxelles, d'ailleurs, mais sous forme de subventions et de programmes communautaires. Et là, il y a un mécanisme implacable d'asservissement qui utilise d'ailleurs un ressort, on l'a bien vu, on le voit avec cet élu savoyard, par exemple. Après tout, son succès vient de ce qu'il tient à un discours qui pourrait trouver chez nous des résonances, qui est un discours d'identité, d'attachement aux cultures locales, à l'histoire, à la personnalité de nos provinces, et ça, c'est avec cela que fonctionne la tentation. Alors, dans ce contexte, eh bien, il y en a qui pensent que les régions sont appelées à avoir de plus en plus de pouvoir, bien évidemment, à être de moins en moins dépendantes du pouvoir central, à avoir de plus en plus de moyens, et puis l'exemple de nos voisins qui n'ont pas la même culture politique que la nôtre est là, les Länder allemands. Mais l'Allemagne a toujours été un État fédéral, la généralité de Catalogne, les collectivités italiennes aussi, des pays qui ont une unité plus récente ou plus fragile que la nôtre, et par conséquent, je crois que certains entrent délibérément dans ce système.
On va m'accuser d'être sordide, mais ce ne sera pas la première fois. Quel est le standard de vie d'un président de région ?
Je crois que il est plafonné, s'il est en même temps parlementaire, à une fois et demie l'indemnité parlementaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire 48 000 francs au total, puisque l'indemnité parlementaire est aux environs 30 000 francs. Mais il y a évidemment des à-côtés intéressants. Il y a une voiture, il y a un chauffeur, il y a un logement de fonction, il y a une somptueuse villa, l'on peut recevoir, on a des moyens évidemment importants à distribuer. C'est une position qui est évidemment matériellement enviable. Elle est matériellement même très enviable. Ceci étant, elle l'est beaucoup moins que certaines sinécures dans des entreprises anciennement publiques ou nationalisées, où l'on a collé un certain nombre d'amis du pouvoir, et où là, on est bridé par aucune limite en matière de salaire, où l'on cumule les avantages à la fois d'une la sécurité de l'emploi et de salaires faramineux. Je pense aux anciennes entreprises publiques, aux banques nationalisées, etc.
Bah, enfin, pour quelqu'un qui n'a aucune capacité particulière, qui n'est ni narque, ni inspecteur des finances, ou que ça peut être une situation confortable.
Je crois que Monsieur Millon aurait pu faire une carrière civile, honnêtement.
Il est conseiller juridique et fiscal.
Oui, absolument. Oui, oui. Non, il c'est un homme qui a des capacités. Ne serait-ce, vous savez, en politique, dans ce domaine, il faut déjà arriver à s'imposer à son propre camp. Ça suppose déjà un certain nombre de qualités. Ce ne sont pas forcément celles qui nous conviennent le plus. Mais non, je crois, Monsieur Millon aujourd'hui est président de région. S'il n'est plus président de région, il a été ministre de la Défense, mais la Défense a été liquidée.
Il n'est plus député.
Il a été mis en minorité. Enfin, son poulain a été mis en minorité dans le canton de Belley, je crois. Mais je n'irai pas jusqu'à suspecter des intentions abominables. Je crois que ça peut. C'est vrai que pour un homme qui a dirigé les destinées d'une région pendant très longtemps, ça fait 10 ans qu'il est président en titre, mais avant il y exerçait des fonctions importantes, ce doit être sans doute un crève-cœur que de voir d'autres s'installer dans le fauteuil, et ceci peut l'être pour des raisons tout à fait honorables. Moi je ne sonde pas les reins et les cœurs, je ne porte pas de jugement pour ne pas être jugé, ce que je dis simplement...
Jusqu'à présent, ça vous a pas empêché d'être jugé,
c'est pas les juges qui me... ces juges-là importe peu, je vous dis tout de suite. Mais ce que je crois, c'est que il a franchi le Rubicon et puis il est effrayé de sa propre audace. Alors il essaie de se dédouaner en injuriant Jean-Marie Le Pen dans un article au Monde. Il a rédigé aussi dans le Figaro un article extrêmement ambigu où on ne sait pas très bien s'il demande notre interdiction ou s'il dit que tant que celle-ci n'est pas prononcée, après tout, il vaut mieux nous embrasser pour nous étouffer. Tout cela ne me paraît pas très correct.
Il a beaucoup de points en commun avec le président de la République.
Il en a, oui, assurément. Ben, il était l'homme lige du président de la République à l'intérieur de l'UDF.
Des questions, Victoria?
Oui, beaucoup. D'abord, une félicitation. Quand je vois et j'entends M. Gollnisch, cela me console d'appartenir au genre humain, car depuis quelques jours, ce que nous entendons à la télé, c'est les goûts à ciel ouvert.
Merci beaucoup, mais il n'y a pas que des observations aussi aimables. J'en ai lu qu'il était moins, je répondrai aussi à celles qui le sont moins.
Hier soir sur Europe 1, un auditeur favorable aux ententes avec le Front a été éconduit. C'est scandaleux, et c'est ce même journaliste qui dénonçait auparavant la démocratie en danger.
Ah oui, ça m'étonne pas du tout de cette station, sur laquelle d'ailleurs, je crois, à 12h54 samedi dernier, j'ai été traité par Monsieur Georges Marc Benamou d'abominable nazi, paraît-il.
Je ne l'ai pas entendu.
Permettre de mettre un peu de beurre dans les épinards, cette affaire-là, non?
Oui, je le pense, je vais envoyer du papier bleu à Monsieur Benamou, et à la station aussi. Oui.
Il faudrait dire et redire que les présidents des conseils généraux élus avec les voix du Front, subissent un procès stalinien.
Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est des pressions incroyables. La gauche est hystérique, déchaînée, essaie de reprendre, comme d'habitude, dans la rue, ce qu'elle n'obtient pas dans les urnes, se livre à des manifestations, envahit les enceintes, pas à Lyon, mais ça s'est passé en Midi-Pyrénées, ça s'est passé ailleurs, envahit les enceintes des assemblées, ce qui est incroyable. C'est pas incroyable.
Ce qui est incroyable, c'est que ce soit que ces gens-là se comportent comme des chiens. On le sait depuis longtemps. C'est pas d'hier, mais que ça soit toléré par le système, c'est-à-dire qu'ils parlent.
Non seulement toléré, mais encensé. Car toute la presse, par exemple, dit ben voyez bien, c'est la preuve. Ce mouvement, en quelque sorte spontané, c'est bien la preuve que les présidents qui ont été élus avec les voix du Front National ont fait quelque chose d'abominable. Par conséquent, on donne raison. Comme toujours, aux fauteurs de troubles et d'actes de violence, quand ils sont dans le camp du politiquement correct. C'est une ambiance de type mai 68, enfin, ou mars, moi j'étais là le 22 mars 68, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est l'ambiance certainement des clubs jacobins ou des pressions qui s'exerçaient sur la Convention pendant la Révolution.
Quand on voit les films des réunions et des mouvements de foule en 68, c'est peut-être parce que la télévision était en noir et blanc, mais c'est moins coloré. les images.
Ah ben oui, depuis, la population a un peu changé, c'est sûr.
Mais c'est pire que le politiquement correct, parce que c'est Ralfon, c'est quand même l'extrême gauche, l'extrême extrême gauche.
Ah oui, mais ils sont...
Qui sont là uniquement pour taper.
Oui, mais absolument, mais ils sont subventionnés par les collectivités publiques, et pas seulement par les collectivités publiques de gauche.
Oui, sur toutes les chaînes de télé, nous avons assisté au spectacle honteux et dégradant de voir ces présidents nouvellement élus par le peuple faire leur autocritique, comme aux heures les plus difficiles de Staline et de Mao.
Oui, seulement, là, je dois dire, moi, je ne les plains pas.
Sure.
Je ne les plains pas. Parce que, comme je l'ai dit, après tout, M. Millon est quand même un grand garçon. Il a une carrière politique derrière lui qui est déjà importante. Ce qui s'est passé, cela a été concerté plusieurs jours avant son élection. Il a pris ses risques. Maintenant, il faut qu'il les assume. Et s'il ne veut pas des voix du Front National, s'il persiste à entretenir l'ambiguïté en disant « je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'aurais jamais rien demandé, d'ailleurs je ne veux pas les connaître, d'ailleurs ils sont abominables », il y a une façon très simple de clarifier la situation, c'est qu'il remette en jeu son mandat en précisant qu'il ne veut pas de nos voix. À ce moment-là, nous ne les lui donnerons pas, et ce sera très clair.
Il y a un vieux truc de pickpocket que je peux vous révéler, bien que n'ayant jamais été pickpocket, c'est que il y a dans les équipes de pickpocket, il y a celui qui vole et qui glisse immédiatement le produit du larcin dans la poche du voisin. Si bien quand on arrête le voisin, le gars dit au flic, ben écoutez, je sais pas, il y a un type qui m'a glissé un portefeuille dans la poche, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas touché le portefeuille, c'est un type en partant qui me l'a mis dans la poche. Alors Monsieur Millon dit, ben écoutez, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Il y a un type qui est pas, Gollnisch est passé devant moi, je me suis retrouvé président de la région lyonnaise. C'est quand même curieux. Alors on dit, ben rendez la région lyonnaise, rendez le porte-monnaie. Et, mais non, il faut que je vois, il faut que j'en parle à Monsieur Chirac, à Monsieur Giscard. Moi, je me demande si derrière tout ça, parce que c'est quand même curieux que Chirac a téléphoné à Millon pour lui demander de démissionner,
absolument.
Et il n'a pas démissionné.
Oui.
Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Bruno Gollnisch, mais je pense qu'il y a une explication qui est du domaine du matériel. C'est que Monsieur Millon a certainement dit à Chirac, écoute, t'es bien gentil, mais si je démissionne, qui est-ce qui va payer mes mensualités, les mensualités de la maison? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et Chirac a dû lui dire, on te donnera une place. Alors Millon lui a dit, oui, mais quand? Ben plus tard, parce que maintenant, ça serait un peu voyant. Alors Millon a dit, ben je reste, voilà. Et maintenant, il va aller voir Monsieur Giscard lui disant, si je m'en vais, est-ce que vous me donnez une place? Comme ça, il pourra dire à Chirac, lui, Giscard, il m'a donné une place, tandis que toi, tu m'as rien donné. Moi, c'est une interprétation.
C'est une interprétation peu bienveillante.
Mais oui, bien sûr.
Peu bienveillante, mais après tout... Non, je n'en sais rien, ça. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Je sais, je crois que de toute façon, politiquement, personnellement, quand on fait ce genre de choses, comme l'on dit, on brûle ses vaisseaux, pour prendre une autre métaphore plus aquatique, on franchit le Rubicon. Il faut
tout
pas
en
dire,
ses vaisseaux,
il faut pas, oui, tout en brûlant ses vaisseaux, ce qui est très difficile.
Ça fait d'avoir le feu aux fesses.
Mais il faut aller jusqu'au bout, sinon on perd sur tous les tableaux. Il est évident maintenant que si Monsieur Millon démissionne, le peu de chemin qu'il a fait va lui valoir un opprobre qui va durer jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est une tunique de Nessus qui ne pourra arracher. Et alors, s'il n'est plus président, bon ben, il perd sur tous les tableaux. Voilà. Donc,
le meilleur
il faut
moment,
aller un peu de courage, un peu de courage.
Mais
vous savez ce que m'a dit ce matin Jean-Marie Le Pen?
Je suis anxieux de le savoir.
Il m'a dit, mais ne crains-tu pas que Millon finisse comme Milon?
Ah, Milon de Crotone.
Milon de Crotone, absolument. Vous savez, cet athlète grec,
oui.
6 siècles avant notre ère, je crois. Pas dire de bêtises, c'est peut-être seulement 5.
Ça, Lida, et moi, on est bon. Un petit peu fâchés. Mais, enfin, il y a longtemps, en tout cas.
Un athlète oui. très costaud, oui. Il faut dire. Hein.
Oui. Combien il a fait? 42 km 700 hein.
Mais il est mort...
Ah non, c'est pas le même.
Non, c'est pas
celui-là.
Non,
je confonds. Je me souviens de son nom, mais c'est pas le coureur de marathon. C'est le baraqué, là. C'est le costaud.
Et qui est mort en restant les mains coincées dans la fente d'un arbre dont il essayait de dissocier les deux moitiés.
Les deux moitiés, oui.
Il a été dévoré par les bêtes fauves. Alors, je ne souhaite pas du tout qu'il arrive la même chose à M. Millon, mais métaphoriquement, c'est un petit peu ça.
Oui.
Parce que là, vraiment, la gauche... Et puis alors, la gauche est d'autant plus furieuse qu'elle considère ça, à juste titre, comme une espèce de trahison personnelle. Parce que finalement, il y avait une entente cordiale qui régnait toutes ces dernières années entre eux pour co-gérer la région. Et puis la gauche s'était déjà partagé les places, ils avaient déjà réparti les vice-présidences, ils avaient déjà fait la liste des fonctionnaires dont il fallait faire tomber les têtes, enfin vous rendez compte.
Oui, c'est embêtant pour eux. Ils peuvent rien donner aux communistes pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas. Cela dit, dans le cas de Millon, il y a quand même eu un grand moment, c'est quand Jean-Marie Le Pen lui a demandé de démissionner.
Mais évidemment, parce que pour se dédouaner, et je trouve ça pas très intelligent, d'ailleurs, de sa part, Monsieur Millon a cru bon, dans un article donné au journal Le Monde, évidemment, d'injurier tout à fait gratuitement et odieusement Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen a très bien répondu. Et si Monsieur Millon estime que je suis si abominable que cela, il ne peut pas conserver un poste qu'il doit... à une décision personnelle de ma part.
Il l'a pas sommé de démissionner, d'ailleurs.
Il lui a demandé de clarifier la situation. Oui, c'est ce que j'ai réitéré hier. Et
mais maintenant,
j'attends la réponse.
Maintenant, c'est Millon démissionne. Mais il a tempéré au diktat du Front National. Donc, quoi qu'il fasse maintenant, s'il reste, il est élu par le Front.
C'est l'argument spécieux que développait, je crois, M. Vasseur au grand effarement de M. Vauzel.
Oui. Mais quand
Monsieur
Vasseur
disait, en gardant son sérieux à la télévision, ouais. Mais il faut que Monsieur Millon reste pour résister à Monsieur Le Pen qui lui ordonne de démissionner. Et là, je veux dire que Monsieur Vauzel était assez effaré, oui.
Que pensez-vous de la pitoyable démission de Jean-François Deniau, invoquant le rappel des accords de Munich?
Oui, alors je l'ai dit hier justement en séance, les accords de Munich, c'est la gauche qui en parlait, c'était un radical de gauche qui parlait, n'est-ce pas, qui disait mais c'est Munich. Alors je lui ai rappelé que les accords de Munich avaient été signés par Monsieur Daladier, qui était très exactement la figure emblématique du parti dont il était membre et qui est dans un gouvernement qui était celui de la Chambre de Front Populaire. Voilà. Je suis navré que M. Deniau, que j'avais connu à l'Assemblée nationale, pour lequel j'avais une certaine estime, je dois dire, se livre à une attaque d'une telle bassesse et d'une telle stupidité.
Il faudra quand même un jour tirer au clair, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, et c'est quelque chose que je l'espère se fera rapidement, tirer au clair, mettre à la lumière les fils qui relient ces marionnettes aux marionnettistes.
Oui, il y en a beaucoup, à mon avis. Il y en a beaucoup. Oui, certains réseaux sont connus. Il est évident que le Grand Orient de France a joué son rôle d'une façon extrêmement active. Il y en a qui seraient...
Mais enfin, être viré du Grand Orient de France, ça ne peut faire de la peine qu'à Monsieur Soisson. C'est assez à niveau, si je veux dire.
Oui.
Mais n'exclut pas de démissionner tout de même.
Oui, c'est dès qu'on aura trouvé un truc pour lui. Si on lui donne la direction des mines de Zelidja, probablement il sera content.
Oui, ça c'était... Oui, c'était... c'est l'un des adversaires de Monsieur Millon qui était dans cette situation. Et que je retrouverai peut-être... comme adversaire à la mairie de Lyon, le successeur de Monsieur Noir, qui quand il n'a plus été député a été pourvu de la présidence du syndicat de gestion des eaux de l'étang de Berre.
Organisateur de tombola au profit des organisateurs de tombola.
C'est une situation extrêmement lucrative.
Vous écoutez Radio Courtoisie Jean-Marie Le Pen. Non, Serge de Mecquetch reçoit Bruno Gollnisch.
Pourtant, la ressemblance est extrêmement lointaine.
Il parle beaucoup de Jean-Marie Le Pen. Bon, ne pensez-vous pas, comme messieurs Poniatowski et Junot, que les maladresses de Jean-Marie Le Pen et sa déclaration provocante au sujet de la PACA ont joué un grand rôle dans les démissions et les mauvais résultats de lundi, les bons de vendredi. Oh,
les mauvais résultats de lundi étaient parfaitement prévisibles. On avait vu les taux se resserrer, nous savions très bien, nous étions naturellement en contact en permanence les uns avec les autres, et nous savions ce qu'il en était. Mais je ne vois là aucune provocation, puisque la règle, On peut en effet d'ailleurs la critiquer, mais enfin la règle en principe en démocratie, c'est que les gens qui prétendent gouverner une assemblée réunissent autour d'eux une majorité de ceux que les citoyens ont élus pour parler en leur nom. Bon, c'est ça la règle. Bon, elle a ses avantages et ses inconvénients, elle est sans doute critiquable, mais enfin, c'est théoriquement la règle. Par conséquent, il est tout à fait normal que si la gauche est minoritaire, si une entente peut se réaliser parmi ses adversaires, et si ceux-ci sont majoritaires, ce soit eux qui gouvernent. Et il est non moins normal qu'à l'intérieur de cette coalition, ce soit la formation la plus importante, ou à égalité celle qui a reçu le plus de voix, qui prennent en main les destinées de la collectivité en question.
En plus, je trouve curieux qu'on reproche à quelqu'un qui présente sa candidature à la présidence d'un conseil de région d'être un provocateur, parce que c'est ça qui nous est.
Oui, c'est ça. C'est
le fait pour Le Pen d'être candidat à la présidence de région qui constitue une intolérable provocation.
C'est ça. Alors que c'est le thème de la campagne. Notre but n'est pas d'être des supplétifs du RPR et de l'UDF. Notre but est de peser sur les décisions qui sont prises par les collectivités publiques, en fonction du programme que nous avons soumis aux citoyens. Et après avoir fait ce royal cadeau, pratiquement sans contrepartie, puisque je vous rappelle, moi je n'ai pas demandé de vice-présidence ni quoi que ce soit, simplement une participation à la direction des commissions, qui sont des organismes d'études et de préparation des dossiers, et qui ne sont assortis d'aucun avantage matériel. Comme d'ailleurs tous nos camarades. Donc, nous n'avons rien demandé pour nous-mêmes, nous avons fait ce cadeau de 5 régions à une droite qui se croyait déjà vaincue, à des conditions politiques extrêmement modérées. Il était parfaitement conforme au droit, à la justice et aux traditions politiques et que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous revienne.
Légalement, peut-on dissoudre le Front ? Cela nous inquiète beaucoup.
Écoutez, comme je suis un honnête homme d'une part, du moins je crois, que j'ai enseigné le droit, que je suis avocat et que j'ai été législateur, je puis vous dire, contrairement à toutes les crapules qui disent quand elles sont arrêtées, j'ai toute confiance dans la justice de mon pays, que moi je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays.
C'est comme ça qu'on reconnaît les gens intelligents, voilà, hein.
Dans la justice de mon pays. Ce serait évidemment une monstruosité absolue. Ce serait ouvrir, je pense, la voie à des désordres, parce que là, je crois qu'un certain nombre de Français, dont nous ne cessons de calmer les exaspérations, auxquelles nous disons « Attendez, restez dans le cadre de la légalité », et qui nous disent « Oui, mais je reste, moi, dans le cadre de la légalité, mais autour de moi, je vois que ma fille est violentée, ma voiture est brûlée, mes biens sont saccagés, et j'ai envie de sortir et de prendre un fusil ». Ces gens-là, nous leur disons de rester calme. Je crois que le Front National a un rôle social considérable, un rôle pacificateur, justement, dans les tensions du pays, contrairement à ce que prétendent tous ses adversaires. Eh bien, s'il disparaissait, je ne vois pas. C'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la fièvre.
C'est assez évident. Cela dit, les propos du président de la République lundi soir, ils étaient suivis dans cette logique délirante, ils conduisent tout naturellement à des décisions de ce genre.
Oui, mais ce serait naturellement monstrueux. Et moi, je voulais rédiger une tribune libre, mais quel journal me la prendrait ? Sur le thème suivant, mais qu'a donc fait le Front National ?
Ah oui.
Parce que même une affaire aussi monstrueuse que Carpentras, qui est un montage médiatique, évidemment médiatico-politique, mais à la limite, dans l'affaire de Carpentras, il y a au départ un acte aussi odieux que stupide, qui est la profanation de sépulture dans un cimetière juif, et que l'on essaie de raccrocher contre toute vérité, contre toute même vraisemblance, mais à une action ou à une influence diffuse du Front National. Mais au moins, il y a un acte odieux. Le lien de causalité qui existe entre cet acte odieux et nous fait complètement défaut, mais enfin, à partir de ça, on essaie d'exacerber les tensions, d'ameuter les gens, de jouer sur leur sensibilité. Mais là, il n'y a pas même le début de commencement d'un fait délictueux qui puisse nous être imputé. Nous sommes élus dans une assemblée, dans un système qui dit la direction d'une collectivité appartient à la majorité. Nous faisons usage de nos voix contre nos adversaires, ceux pour lesquels nous avons une plus grande répulsion, et en faveur de ceux que nous considérons comme un moindre mal, dans les circonstances actuelles. C'est non seulement notre droit, mais c'est notre devoir. Et cela suscite tout d'un coup dans tout le pays, jusque dans la personne du chef de l'État, une haine, une vindicte. Et l'on entend effectivement jusqu'à des menaces de dissolution. C'est complètement fou.
Oui, mais parce qu'on est dans un système qui est totalement fou. On a un système qui est inversé, qui est démoniaque, au sens premier du terme. Ça, on est au cœur de l'inversion démoniaque. Quand on entend, par exemple, les commentateurs dire le chantage de Le Pen, alors que il n'y a aucun chantage. Le Pen dit, on va apporter nos voix, à gauche.
C'est comme si l'on qualifiait de chantage une discussion, par exemple, entre, un fabricant de fixes chaussettes qui veut les vendre à un partenaire commercial et qui dit, écoutez, voilà, mon tarif, c'est tant.
Et si vous en prenez 100, je vous fais une réduction de 10%.
Voilà, c'est un ignoble chantage.
C'est un chantage, parce que si j'en prends 100, vous me ferez une ristourne, mais si je ne les prends pas, vous ne me faites pas de ristourne, donc vous êtes un maître chanteur. Non, mais il n'est pas possible.
La télévision lyonnaise, par exemple, puisqu'il y a une télévision locale, la proposition que j'ai faite en parfaite conformité avec la décision du bureau politique à laquelle, au prix de croire, j'ai assez largement participé, et en conformité évidemment avec la déclaration de notre président, a été retransmise à la télévision avec la flamme du front et l'incrustation, le titre « Chantage ».
Mais bon, que cette crapulerie universelle, parce que vraiment, c'est général, je le disais tout à l'heure.
Il n'y a pas beaucoup de justes, hein.
Les médias.
Il n'y en a pas plus que dans Sodome et Gomorre.
Pas plus, oui. Mais que les Français soient dupes de ça, c'est ça qui est effrayant quand même. Quel est le maléfice qui a été jeté sur ce peuple et qui fait que ce peuple qui avait la réputation d'être le peuple le plus spirituel de la Terre se laisse embobliner et se laisse berner par des escrocs aussi lamentables, aussi pathétiques, quand on voit leurs tronches à la télé. Enfin, il ne faut pas deux secondes pour comprendre que ce sont des voyous, des menteurs, probablement des tordus, très certainement des pervers polymorphes. Il n'y a qu'à les regarder. Enfin, quand on voit, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais quand il est apparu lundi soir à la télévision à regarder cette tête, on dit, ce type est sous influence. Il est probablement sous influence de mouvements, de coteries, de groupes, de puissances souterraines, etc. Mais il est également sous influence psychotropique. Enfin, il n'y a qu'à regarder la tête. La façon de parler, le regard perdu, les gestes égarés, s'il y avait, on pourrait peut-être demander un diagnostic à un médecin à partir des images. Ça se fait, ça, devant les tribunaux. Bon, c'est évident qu'il y a quelque chose. Alors, moi, je m'en aperçois, pas plus malin que les autres. Les Français devraient s'en apercevoir aussi. Ils devraient dire, on peut pas continuer, il faut arrêter. Enfin, je regardais Monsieur Polochon, comment il s'appelle, Jean Peluchon, le socialiste qui vient d'être élu président de la région Île-de-France. Écoutez, enfin, c'est inquiétant.
C'est la marionnette de M. Sanchez. Non, mais
c'est inquiétant. Vous avez vu la hauteur du front?
C'est un peu comme Beccaria, là.
Hein? Quoi? Je ne sais pas qui est Beccaria.
C'est l'inventeur de la...
De la physiognomonie.
Voilà, exactement. Moi, chez les criminels.
Mais je prétends qu'à partir de 40 ans, il y a un vieux dicton qui dit à partir de 40 ans, on est responsable de sa gueule. Hein, ça, bon, jusqu'à 40 ans, on a des excuses, après c'est fini. Et quand vous regardez ce personnage, vous dites, il est probablement pas extraordinairement intelligent. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc je m'inquiète de la plus grande région, la plus importante région de France. Pardon de dire ça devant un élu lyonnais.
C'est la deuxième.
C'est quand même la région Île-de-France.
Hein. Je crois quand même que, je crois malheureusement que parmi nos adversaires et nos ennemis, il y a beaucoup de gens intelligents. Je crois qu'il y a une intelligence perverse et l'on voit toutes les techniques de sidération des esprits, des sensibilités qui sont utilisées, parce que même si les trucs sont très gros, je crois que je parle devant une sommité dans ce domaine, mais qui est aux côtés de laquelle je suis assis. Mais par exemple, la fameuse expérience de Pavlov, n'est-ce pas? Bon, ben, le chien de Pavlov, finalement, quand on vous dit l'expérience de Pavlov, ça a l'air très bête. Hein, on lui apporte un beefsteak et il entend une sonnerie. Bon, alors il mange, il salive, il mange le beefsteak, etc. Puis au bout de 10 ou 12 fois, quand il entend la sonnerie, il salive sans qu'il y ait de beefsteak. Bon. Mais finalement, ça a l'air très bête. Bon, mais encore fallait-il l'avoir trouvé et puis en faire une utilisation intelligente. Et vous savez, le matraquage des mêmes mots raciste, xénophobe, antisémite. Tiens, monsieur Chirac n'a pas dit antisémite. Oui, on peut s'interroger pourquoi d'ailleurs, sur les causes. Mais raciste, xénophobe, antisémite, et puis tous ces jeunes gens des écoles là, que leurs instituteurs ou leurs pédagogues emmènent de gauche, il en est de bon. Pas beaucoup, mais il en est de bons quand même, mais il y en a beaucoup de mauvais, malheureusement. Emmène manifester et qui répète comme des hallucinés, F comme fasciste, N comme nazi, F comme fasciste, N comme nazi. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Mais je crois que les manipulateurs sont tous sauf idiots.
Ils sont atteints au lobe frontal, c'est clair.
Dans le matraquage, le 23 mars, au téléphone sonne sur France Inter, Roland Kayrol a dit qu'il n'y avait aucune différence entre le livre de M. Maigret et Mein Kampf d'Hitler.
Mais c'est probablement
et cela
parce qu'il
a été
lu,
repris sur les ondes d'Europe 1 en particulier.
Et c'est parce qu'il n'a lu ni l'un ni l'autre, c'est évident.
Et puis, tous ceux qui ont été insultés par les socialistes et traités de fascistes ont atterri au pouvoir. De Gaulle, par exemple, et je crois Chirac à son heure. Donc le front est en bonne voie.
Le canard l'a pas fait facho-Chirac.
Facho-Chirac.
Ah oui, mais
de Gaulle,
alors c'est ça qui est très intéressant aussi.
Même De Gaulle.
C'est quand même un motif de satisfaction que nous avons dans les circonstances actuelles. C'est que quand il y a eu cette hystérie de la gauche et de l'extrême gauche, toutes ces injures que nous sommes, nous, habitués à recevoir, elles ont été adressées par priorité à nos collègues de la droite molle. Et cela trouvait jusqu'à présent tout à fait normal, et même peut-être justifié, que nous fussions traités de fascistes, nazis, que l'on explique que nous étions responsables d'Auschwitz, des enfants d'Isieux, de la collaboration, de que sais-je encore. Et quand ils ont vu que dans la seconde même où M. Millon, par exemple, était élu dans ma région, c'était eux qui étaient injuriés de la même façon, on a vu à la fois leur incrédulité, leur désarroi, et les malheureux, ils n'ont pas l'habitude aussi, ce sont des tempéraments
faibles.
Ils n'ont
pas la santé. C'est ça. Il y avait hier une image extraordinaire, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, où on voit Marie-France Tirois, qui répond à... Alors, il y a en haut des gradins, on ne sait pas trop où ça se passe, mais... des tronches, des gueules, des hurlants, de bavants de haine et tout. Et en bas, Marie-France, qui en a vu d'autres, qui a affronté quelques foules.
Oh oui, quel courage.
Et qui, avec un sourire lumineux, littéralement, leur fait un petit signe de la main et qui, d'une façon très élégante et très amusante, se transforme en bras d'honneur. Mmh. Et cette femme toute seule, c'est difficile de faire un bras d'honneur élégant. Hein. Et ben, il était d'une grande élégance. Il était très enchanté, une espèce de chic, de souplesse, en disant "Écoutez, j'essaye d'employer votre langage." Bon, et là,
a été montré à la télévision, c'est parce que on veut faire croire à l'indignité profonde de Madame Stirpa.
Seulement, ça colle pas. Et en plus, ils ont fait un arrêt sur image pour bien montrer qu'il y avait un bras d'honneur. C'était ridicule, mais je dois dire que c'était plutôt réjouissant de voir le courage tranquille et souriant de Marie-France. Ça rappelle quand même des heures tout aussi sombres.
Hein.
Mais voilà, je crois que le bilan de tout ça, moi, me paraît extrêmement positif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je crois, j'essaie de raisonner, comme disent les informaticiens, par arborescence. Alors, de deux choses l'une. Ou ceux que nous avons contribué à faire élire tiennent bon. Et je crois à ce moment-là, d'abord, c'est déjà important que 5 régions françaises échappent à une coalition de gauche et d'extrême-gauche. Premièrement, en fonction de l'intérêt de ces régions et des gens qui y habitent. Bien. Deuxièmement, je crois que c'est une amorce quand même de... c'est une brèche considérable ouverte dans le système de haine et d'exclusion contre des millions de Français. Autre possibilité, ils capitulent sous les pressions, c'est vrai, énormes qu'ils reçoivent. Et comme ils ne sont pas très courageux, il ne faut pas exclure cette éventualité. Mais là, je crois que la démonstration a été faite, que ce n'est pas le Front National qui fait passer la gauche, puisque les mêmes qui, ceux-là même qui disent « mais le Front National fait passer la gauche », quand on leur dit « écoutez, vous ne voulez pas faire passer la gauche, mais on n'a qu'à s'entendre, voilà, et on est d'accord pour voter pour vous », ils disent « ah non,
sans contrepartie,
c'est abominable, c'est affreux bon. ». Donc, je crois que la démonstration a été faite, et je crois que ceci, quand même, chez certains de nos collègues, je le vois, du RPR et de l'UDF, va laisser des traces et conduire ceux qui ne font pas partie de la conjuration à réfléchir. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont déjà réfléchi et pris position, même si leurs positions sont moins médiatisées que ne le sont celles de nos adversaires.
Un conseil d'auditeur, oui. Pour tous ceux qui sont ahuris par tout ce qui se passe, ils peuvent commander et distribuer autour d'eux l'opuscule publié aux éditions de Présent, « Ce que l'on vous cache », de
oui,
Jean Madiran.
Excellent, excellent opuscule qui justement fait le point sur la genèse du pacte infâme.
Donc à Présent,
quelques explications sur les marionnettes, les ficelles et les marionnettistes.
Voilà. Alors, c'est Présent 5 rue d'Amboise ou 10 Fralive. Boîte postale 13, 78 580 à Mons.
Alors, puisqu'on en est à faire de la publicité, je me permets de signaler à l'auditorat ébloui que le Libre Journal qui est sorti ce matin apporte des révélations sur cette question et aussi sur la question médicale. J'invite les auditeurs qui seraient intéressés à le commander. 4 places France Litz, il suffit d'envoyer, bon, je crois, 25 francs, quelque chose comme ça, pour recevoir le dernier numéro paru. Et il y a quelques...
Il faut s'abonner, hein, carrément, d'un seul
oui,
coup.
Moi, je serais assez d'avis qu'il faut s'abonner, mais
il
enfin,
s'abonner.
Avant, nos auditeurs n'achetant pas...
C'est un journal remarquable, bien écrit, merci, bien imprimé,
sur du beau papier.
Et sur du beau papier, voilà. Et c'est vraiment très agréable.
C'est élégant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en me voyant. Merci Bruno Gollnisch. Si vous voulez rester avec nous jusqu'à...
Ah mais je vais rester, je ne peux pas rester jusqu'au bout, mais je vais rester pour écouter les personnalités que vous avez invitées, bien sûr.
Alors, on va écouter un tout petit peu de musique pendant 2 minutes, et après on passera en donnant la parole à monsieur l'abbé Grégoire Cellier pour parler d'un très beau livre qui s'appelle « La blessure ». Как красиво.
Пожалуйста.
Как красиво.
Да, 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 очень,
очень красиво. Monsieur l'abbé Grégoire Cellier, vous venez nous parler d'un livre que vous venez de publier aux éditions Clovis, qui s'appelle La blessure. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de ce livre. Non pas de son contenu, mais de sa genèse.
Voilà, on va peut-être déjà donner les renseignements pour les auditeurs qui sont, disons, avides de les connaître.
Je n'en doute pas une seconde.
Voilà, donc nous allons parler du livre de Jean-Pierre Diques qui s'intitule La blessure, donc publié aux éditions Clovis pour la modique somme de 98 francs. Autant dire que c'est donné. Donc on peut le commander à Clovis, boîte postale 88, 91 152 Étampes Sedex. Téléphone 01 69 78 30 23. Et on peut le trouver en librairie à l'excellente librairie Saint-Nicolas, donc qui est au 6 rue du Petit Pont dans le 5e à Paris, près de Notre-Dame, 50 mètres de Notre-Dame, au métro Saint-Michel et RER Saint-Michel. Donc le téléphone, c'est le 01 43 25 36 67. Et bien entendu, on peut le trouver à la librairie du Ken, ou éventuellement à la procure de Mézières, pour les gens qui sont... Tous nos livres sont à la procure de Mézières, ça montrera à ces gens qui nous aiment modérément qu'on existe et qu'on a un public.
Alors, je signale que toutes les indications qui viennent d'être données, vous pouvez les retrouver sur le Minitel Libre Journal 3615, 3615 Libre Journal, vous tapez sur votre Minitel, et vous avez tous les renseignements sur tous les livres dont il est question dans cette émission, sur les invités également, sur les divers sujets qui concernent la famille. Également maintenant, c'est une innovation récente, je la signale, vous trouverez tous les renseignements sur les livres dont il est question dans l'émission d'Anne Brassier. Ce livre, monsieur l'abbé Cellier, c'est le récit d'un naufrage.
Voilà. Disons, comme vous l'aviez demandé peut-être très rapidement comment ça s'est passé. Donc, lorsque je suis arrivé en 1994 à la tête de Fidélitaire, je publie un petit article et je reçois une lettre de lecteur. Une lettre de lecteur qui me raconte un épisode sur le cardinal Veuillot, qui a précédé le cardinal Marty à Paris. Et c'est, qui me raconte un événement sur la vie du cardinal Veuillot. Bon, je n'avais pas l'intention de publier quoi que ce soit, mais je m'aperçois que celui qui raconte a visiblement été séminariste à l'époque. Et je me dis, ah, tiens, c'est intéressant, je vais peut-être lui demander quelques souvenirs de sa vie de séminariste à l'époque. Et je rentre en contact avec ce monsieur, et finalement il s'avère qu'il a tenu un journal au jour le jour. Et attention, le journal, quand on dit un journal, on se dit non, c'est plusieurs kilos de documentation. D'abord parce qu'il était à l'atelier de reliure du séminaire, donc il a relié tout ça dans un magnifique cuir, etc. Et puis qu'il a inséré là-dedans non seulement ses notes personnelles, mais des dessins faits par lui-même ou par de ses camarades, qu'il a inséré des coupeurs de presse, qu'il a inséré les polycopiés de liturgie qui lui étaient donnés à l'époque. Et donc, j'ai découvert un document extraordinaire et quelqu'un qui avait des souvenirs très précis de cette année qu'il avait passée au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux, donc le plus grand séminaire français. Hein. Le séminaire, on dit un séminaire d'évêques, enfin, c'est le séminaire où se forme, disons, l'élite du clergé français. En 1965, je vous rappelle ce que c'est, fin du concile, élection du général de Gaulle à la présidence de la République, au suffrage universel, et 65-66. Donc une période assez intéressante, on se dit que s'est-il passé à la suite du concile, etc. Il s'agit, donc j'ai demandé au docteur Diques, qui est actuellement médecin à Boulogne-sur-Mer, de raconter cela. Donc il ne s'agissait pas de publier intégralement son journal parce qu'il était très épais, et puis c'est un journal intime qu'il avait écrit pour lui-même dans sa propre démarche spirituelle. Et lui, il n'avait jamais eu l'intention de le publier, etc. C'est de fil en aiguille, je lui ai dit, c'est un document que les lecteurs doivent avoir. Et il nous a donné un récit très vivant, tous les témoignages qu'on a de lecteurs actuellement nous disent que quand on le prend, on le lit d'une traite. Je crois que ça vous est arrivé, M. Ketch. Oui. On est pris par cette histoire tout à fait extraordinaire. J'ai bien insisté auprès du docteur Diques sur le fait que je ne voulais pas qu'il fasse de la philosophie ou de la théologie, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment un témoignage sur ce qui s'était passé à l'époque, un récit et des faits vrais, des faits d'époque, des faits précis sur ce qui s'était passé. Et en fait, on se trouve, c'est comme ça, C'est vraiment un document exceptionnel que nous avons, parce que nous avons comme base ce journal très précis, au jour le jour, qui note au jour le jour tous les détails de ce qui se passe. Et en fait, nous nous trouvons devant comme une tragédie classique.
Unité de lieu,
le séminaire d'Issy-les-Moulineaux, unité de temps, une année scolaire, unité de personnage, puisque tout est centré sur un séminariste qui raconte ce qu'il voit. Et en même temps, quelque chose... Bon, alors ça, après tout, ça pourrait être une année de séminaire banale, etc. Non, parce que en 65-66, nous allons voir passer le séminaire, le plus important séminaire de France, de la tradition ancrée dans toute l'histoire de l'Église, paisible, acquise, à la révolution la plus complète. Ça, alors, ça c'est extraordinaire. Voilà. Et jour après jour, il note les éléments d'un naufrage complet, l'eau qui monte, quoi.
Alors, ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est que c'est d'abord un témoignage brut, en quelque sorte. Il a été travaillé, il est très bien écrit, mais c'est vraiment du témoignage brut. La deuxième chose, c'est, et je le dis ça pour les lecteurs qui diraient, oh, ils vont encore nous enquiquiner avec leur bouquin de curé, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un regard posé, c'est un témoignage sur une opération de blitzkrieg dans la subversion. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ce qu'il raconte le docteur Dickès, le transférer de la même manière sur une école militaire, sur une grande école comme Polytechnique, l'ENARC, Sciences Po, sur une université, dans tous les domaines où l'intelligence de l'homme vient se faire former, il s'est passé à la même époque la même chose, suivant les mêmes mécanismes. Ça, c'est absolument fascinant, parce qu'on découvre quoi ? On découvre que... Et c'est d'autant plus fascinant que ça se passe dans un séminaire qui est à l'époque le plus grand séminaire de France, où je rappelle qu'à l'époque... La totalité des élèves, enfin les élèves du séminaire en question, sont plus nombreux que aujourd'hui la totalité des séministes en France.
Voilà. Hein? Et c'est ça. Disons le chiffre qui est frappant, c'est que le nombre des séministes de la première année. Jean-Pierre Dickès est en première année, il rentre en première année de séminaire. Le nombre des séminaristes de première année est à peu près aussi important que le nombre des ordinations annuelles en France.
Donc c'est 30 ans plus tard. Et alors ce qu'on découvre, c'est le mécanisme éternel, c'est-à-dire la subversion par des agents pourrisseurs, littéralement, d'un système qui paraît indestructible et qui s'effondre uniquement parce que les gens qui sont chargés de la pérennité de ce système se couche devant les pourrisseurs. Alors, ça c'est fascinant. On voit la complicité, même pas complicité active, espèce de complicité gluante, ignoble, qui s'affaisse, la pétoche, la trouille, la médiocrité intellectuelle, les petits appétits. Et alors là, on voit les petites discutailleries de professeurs qui... Et c'est effrayant de voir à quel point, devant un bloc, qui est un bloc marxiste, tout simplement, qu'il appelle d'ailleurs Morsan, qui est constitué de prêtres ouvriers qui viennent, et qui, à l'évidence, ont été envoyés là pour faire exploser le système. Ils sont pas nombreux, ils sont d'une activité folle, ils se basent, alors, l'éternel système, sur la revendication des droits de l'homme, de la liberté individuelle, de la liberté de conscience, etc. Et très très vite, alors au début de l'année, bon bah c'est comme vous le disiez un cimetière traditionnaliste, un cimetière, tiens, quel beau lapsus, un séminaire traditionnaliste, à la fin de l'année, c'est un séminaire, c'est un cimetière de vocation, et un séminaire où la messe du dimanche n'est plus obligatoire. La messe du dimanche n'est pas obligatoire pour des gars qui veulent devenir prêtres. Ben c'est ahurissant. Et on dit aux gens, vous devriez aller donc voir les messes ailleurs. Et on les oblige à aller au temple.
Au temple protestant.
On dit, allez au temple protestant, allez voir comment ça se passe.
Donc, ni l'oraison, ni le chapelet, ni la messe quotidienne, ni les cours. Donc on est dans un séminaire où les cours sont facultatifs. Ouais. Je veux dire, c'est assez extraordinaire. Les cours sont facultatifs, on va ou on va pas. Il y a des notations très importantes. C'est par exemple que il est évident que dans une maison de formation religieuse, il faut un certain silence, un certain approfondissement. Même, comme dit le docteur Dickès, qui avait fait ses études de médecine, même pour des études profanes, il faut une qualité de formation. Or, là, les transistors, à la fin de l'année, hurlent partout. Et il voit, il entend des séminaristes qui rentrent à 3 heures du matin après avoir été faire la fête. Enfin, vous voyez, donc on est complètement, et ceci alors que il rentre, il est pris. Si vous voulez, le livre se divise en 3 parties. Première partie où il décrit ce séminaire où il arrive et il est ébloui par la qualité de la liturgie, la qualité des professeurs, la qualité de la discipline, etc. Deuxième partie où c'est l'espèce de d'effondrement jour après jour de tout ce à quoi il a cru et ce qu'il attendait. Et troisième partie, la débandade complète partout. Et notamment, bon, il donne des chiffres impressionnants. Après cette première année, il sera donc dans ce qu'on appelle la cassette, qui est un foyer pour vocation en recherche. Et quand il dit qu'il y avait 70 vocations en recherche et que 2 ont été ordonnées, c'est quand même un désastre complet. Des centaines, des milliers de vocations étaient perdues à l'époque et ne sont pas revenues. Faut pas, malheureusement, elles ne sont pas revenues parce que les gens étaient complètement découragés. Et effectivement, ce qui est frappant et ce qui a frappé le docteur Dickès, il en a reparlé en dehors du livre, dans son interview à Fidélité en particulier, c'est la démission de des prêtres qui ne savaient plus où elle. Et bon. Tout à l'heure, on parlait de politique, c'est pas mon domaine et pas mon rayon, mais on sent, si vous voulez, cette démission de ceux qui ont pour charge de porter le bien commun, de porter ces jeunes. Ils sont là pour se faire former. Ils n'ont pas les compétences nécessaires, sinon ils seraient pas à former, mais ils seraient déjà formés. C'est donc aux adultes, à ceux qui ont les compétences de les guider, et qui en fait ne disent, bah oui, etc. Et notamment, on voit à un moment, donc il y a un système d'équipe qui est déjà assez révolutionnaire, mais enfin il y a un système d'équipe, et toutes les équipes ont voté contre une initiative, qui est la suppression de l'obligation de la messe. Toutes les équipes ont voté, donc il y a eu la majorité, on se retrouve dans des propos qu'on a tenus, il y a eu une majorité, et finalement, les supérieurs, les prêtres qui sont censés guider, qui sont complices avec le groupe révolutionnaire, tranche dans l'autre sens, contre la majorité. Pourtant, il leur avait dit de donner leur avis, il leur avait demandé de leur avis. Il tranche contre la majorité au service de la subversion. Et finalement, ce qu'on verra, et c'est là aussi, c'est quelque chose qu'on, je pense, on retrouvera dans cette démarche politique un jour ou l'autre. Les sulpiciens, donc les prêtres, vont réagir, non pas lorsque le séminaire s'effondre, mais lorsque eux sont attaqués. Parce que finalement, le groupe révolutionnaire, qui va toujours plus loin, écrit à l'archevêque de Paris pour les virer. Pour dire, sortez ces vieux sulpiciens, ces espèces de vieux nuls, mettez-les dehors. Alors là, ils se sentent menacés dans leur prébende, et à ce moment-là, ils réagissent, et ils vont faire quelque chose de tout à fait typique, c'est, je crosse à gauche, 10 à gauche, et je crosse à droite, 30 à droite. Ouais, c'est ça. Voyez ?
Bruno Gollnisch, ça vous inspire un commentaire?
Ah oui, parce que je suis absolument fasciné par ce que j'entends, je vais me précipiter sur le livre.
Ah, il est formidable.
C'est manifestement la description de tous les phénomènes révolutionnaires. Et toute chose égale par ailleurs, moi c'est ce que j'ai vécu lors de ma première année de faculté, celle qui m'a marqué pour la vie. 1967-1968 à Nanterre, où je dois dire, je suis arrivé dans une faculté qui était toute neuve, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que les abords étaient laissés à désirer, avec des professeurs qui, au début de l'année, faisaient cours en toge, et qu'on applaudissait au début de chaque cours. Enfin, il y avait le rituel, n'est-ce pas? Bon, le décorum, et j'ai vu comment malheureusement, mes camarades, hélas impuissants, Marie-France Tirebois et beaucoup d'autres, j'ai vu comment une poignée de marxistes animés de la même volonté implacable, du même cynisme absolu et d'une formation doctrinale impeccable en ce qui concerne les techniques de prise de pouvoir, a progressivement déconsidéré l'institution, l'amenant à réagir mais toujours trop mollement, se fondant sur ses réactions trop molles pour à chaque fois accumuler des victoires, et finalement a déconsidéré l'ensemble et avait explosé le système et pratiquement à faire exploser le pays, puisque on a été quand même à deux doigts de la paralysie totale et de la guerre civile.
Le livre du docteur Dickès, c'est intéressant c'est un livre passionnant pour un catholique, parce qu'on voit naufrager l'Église de France en un an. pouf, ça y est, on a un magnifique vaisseau, et puis un an plus tard, montre en main, on a une épave qui est abandonnée par tout le monde, etc.
Et c'est vrai que ça ne marche que s'il y a la lâcheté des autorités.
Ah, c'est l'agent.
Il suffit là qu'il y ait deux ou trois personnes qui résistent, qui tiennent bon, qui dénoncent mais qui sont à condition qu'elles soient en place, que ce soient les chefs légitimes, voilà. Et qui s'opposent au phénomène, et à ce moment-là, la tentative révolutionnaire échoue.
Mais parce qu'il y avait des traditionnalistes, donc des séminaristes qui voulaient se faire former correctement, et qui sont venus supplier les autorités, ça c'est un moment tragique, où ils s'étaient un peu regroupés, pour faire pièce, en demandant, donnez-nous de l'aide. Oui. Et l'autorité leur a dit non. Et non seulement leur autorité leur a dit non, mais leur a dit, si vous faites de la résistance, vous serez crossés deux fois plus que ceux qui sont les révolutionnaires.
C'est exactement la situation qu'on évoquait tout à l'heure.
C'est ce que j'ai vécu. Je me souviens un jour avoir fait une démarche au nom de la majorité des étudiants de l'université auprès du recteur de l'Académie de Paris. Mais pour moi, un étudiant de 18 ans, être reçu par le recteur de l'Académie de Paris, qui gérait à l'époque, je crois que c'était le recteur Capel, à l'époque... 200 000 étudiants. Il n'y avait qu'une seule université parisienne comme personne morale, c'est-à-dire ça recouvrait tous les établissements d'enseignement supérieur de lettres, de sciences, de droit, de médecine de Paris. Et pour demander poliment si compte tenu de la situation, il n'était pas possible de déplacer un peu la date de nos examens pour que nous puissions les passer. Et compte tenu de la pression que faisaient les gauchistes, et le recteur de dire on va déplacer tout ça, mais même peut-être plus d'examens, mais vous n'avez pas d'autres revendications, etc.
Ce livre, La blessure du docteur Dickès, à mon avis, c'est un livre qui doit être lu, qui doit être acquis, distribué dans tous les mouvements qui ont des cadres et qui veulent faire de la formation de cadres. Je pense notamment, curieusement, parce que le Front National n'est pas une organisation confessionnelle, mais je suis certain qu'il faudrait faire lire aux jeunes nationalistes ce livre, parce que c'est un formidable comprimé d'intelligence des événements. On comprend exactement comment comment l'adversaire fait exploser les systèmes traditionnels de l'autorité et de la transmission d'autorité.
Il y a par exemple où on voit la lâcheté de l'autorité qui ne veut pas être autorité et qui est néanmoins autoritaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le groupe de Morsan, c'est quoi? C'est un groupe de vocation tardive, donc beaucoup de jeunes venus de la CGT, du milieu ouvrier, etc., qui ont déjà été formés dans un pré-séminaire à Morsan. Ils ont déjà une volonté commune et ils arrivent. Et en plus, les sulpiciens qui n'ont pas le sens de ce que c'est que la subversion se disent « Ah, on est très habiles, pour éviter qu'ils aient trop de poids, on va les disséminer dans toutes les équipes. » Résultat, comme ils se tiennent, ils tiennent toutes les équipes. Or, il se passe un jour... C'est un petit fait vrai, et le livre n'est que fait de ces petits faits vrais qui sont si caractéristiques. Morsan décide que pendant la messe, on ne s'agenouillera plus pendant la consécration. Il décide que les séminaristes ne s'agenouilleront plus pendant la consécration. Et ceci se fait pendant la messe d'un des prêtres qui est le plus progressiste. Et le prêtre est non pas scandalisé que, disons, ça soit la subversion, mais
qu'on ait fait ça dans sa messe à lui.
Voilà, dans sa messe à lui, il est vexé. Et que fait-il au lieu de tenser ou de sanctionner ou de demander? Il coupe le chauffage parce qu'il est l'économe, il coupe le chauffage, comme ça les séminaristes seront au froid, il sera vengé du fait d'avoir été vexé, mais de l'autorité qu'il détient, de la transmission qu'il doit faire, il n'en tient aucun compte. Et ça, je crois que c'est très caractéristique. Et il n'y a pas de... Et finalement, comment se passera le fait que le docteur Dickès, hein, le séminariste Dickès ne restera pas, c'est lorsqu'il ira voir son directeur spirituel à la fin de son année pour faire un bilan, et que brutalement, son directeur spirituel lui dit « c'est fini ».
Il faut partir.
Il faut partir. Pourquoi? Parce que tu es d'Action française. Et Dickès dit, je suis d'Action française, mais je n'ai pas voulu du tout en parler. Je n'en ai parlé à personne sinon à vous. Je veux rester tout à fait discret puisque je suis là pour me former dans l'esprit de l'Église. Tant pis, tu as ces idées. Ces idées ne sont plus dans la ligne. Dehors. Et en 10 minutes, il se retrouve hors du séminaire. Enfin, moralement, donc il restera encore les derniers jours pour arranger ses affaires. Mais en quelques 10 minutes, alors que... Son directeur spirituel, il l'avait choisi comme étant le plus traditionnaliste, le plus attaché à la tradition de l'Église, mais il n'y a pas de soutien, pas d'aide et pas de...
Je ne sais pas, on en est, est-ce que j'ai l'impression qu'il est l'heure. Alors, voilà, on arrive à 19h30, pardon, monsieur l'abbé, on va faire la suspension pour le changement de cassette, je vous demande de rester encore quelques minutes. Voilà.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite CanalSat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
Excellente nuit à tous, merci de la passer à notre écoute. Voici, sans plus tarder, la deuxième partie de cet archive de Radio Courtoisie, un libre journal de Serge de Bekech, daté du 25 mars 1998.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 25 mars 1998, rediffusée dimanche 6 décembre 2009 dans la nuit de 2h à 5h. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Autour de moi, dans ce studio, le monsieur l'abbé Grégoire Cellier, qui est le directeur de Fidélité et des éditions Clovis, et qui publie un livre, les éditions Clovis qui publie un livre de du docteur Dickès qui s'appelle « La blessure ». Et puis Bruno Gollnisch qui est resté avec nous pour un moment, Éric Lebec et François Plantet qui resteront avec nous tout à l'heure pour évoquer certaines questions autour du livre d'Alexis Sarrête, Les dieux du crépuscule. Monsieur, vous restez avec nous aussi, je crois, monsieur.
J'essaierai de rester ici. Oui.
Monsieur Debé, vous nous avez expliqué ce qu'était le livre de Dickès très rapidement. J'invite vraiment les auditeurs à le lire et à le répandre, ce livre, car c'est un outil politique, disons le mot. Vous le présentez bien entendu au titre de prêtre comme
voilà, un ouvrage. On peut l'offrir notamment à des prêtres, ça les éclaire, parce que les prêtres bien entendu pensent à leur succession, pensent aux vocations, et le fait d'avoir ce livre si dramatique dont souvent ils ont vécu une grande partie, et est une chose importante et peut éclairer beaucoup de prêtres et puis même de gens qui ne s'imaginent pas que la situation de l'Église ait été telle et qu'elle soit aujourd'hui telle aussi grave. Mais effectivement, je pense que c'est à la fois, donc c'est un document religieux, c'est un document de l'histoire religieuse, mais c'est aussi un document, pour moi je dis, c'est 1790. C'est le fait qu'une autorité ne fait plus ce qu'elle doit faire et petit à petit se lance entraînée par des groupes de pression jusqu'à disparaître et faire avancer complètement la subversion.
Alors on va être amené à en parler. Alexis Sarrête vient de nous rejoindre et au fond ce livre me confirme une chose que j'ai toujours eu, dont j'ai toujours eu l'impression, c'est qu'il y a des époques dans la vie des sociétés où il se passe des choses qui se ressemblent. Il y a des époques qui ont une certaine allure. Et là, on est au cœur d'une de ces époques. La blessure, c'est 65, 66. Voilà, donc la chute de l'église conciliaire, on peut dire l'effondrement de l'église conciliaire. Son infestation, c'est cette période-là. L'infestation de l'armée, c'est la même période. L'infestation de l'université, Bruno Gollnisch nous le rappelait tout à l'heure, c'est la même période, c'est 67-68. L'armée, c'était un peu plus tôt avec l'Algérie. La politique, je ne sais plus qui le rappelait tout à l'heure, avec De Gaulle en 65, et la première émergence de Mitterrand en 65 qui se présente contre De Gaulle.
Avec un petit fait, c'est que les complices, c'est-à-dire l'office du soir au séminaire, sera supprimé pour que chaque soir, les séminaristes puissent regarder la campagne télévisée.
Voilà,
la première campagne télévisée des présidentielles, puisque c'est les premières présidentielles. Donc, les complices sont supprimés. Bien entendu, comme tout processus révolutionnaire, elles ne seront pas restaurées. C'est toujours le principe. On supprime pour un temps,
provisoirement,
et ce n'est jamais restauré.
Oui, c'est comme la légalisation de l'avortement. L'avortement, c'est une loi à l'essai.
Voilà.
Et maintenant, on met en prison ceux qui s'opposent aux abus relatifs à cette loi. Alors, on va évoquer ces questions. On va redonner les adresses. Ce que je voudrais dire également aux auditeurs, c'est que, en tant que directeur de Fidélitaire, vous venez de consacrer un numéro de Fidélitaire essentiellement à ce livre, et que si on hésite à lire le livre, avant de le lire, on peut lire Fidélitaire, qui résume parfaitement la question, mais c'est insuffisant. Il faut lire ce livre. Ouais. Vraiment, c'est un document extraordinaire. Oui, je vais faire un peu de mise en place, parce que oui, Monsieur Arec, si vous voulez vous mettre là, Bruno va changer de place, il partagera son micro avec Monsieur Labbé, comme ça on aura les deux robes.
Voilà.
Non pas que Bruno soit en robe, mais il est avocat, je le rappelle.
Donc. Alors je redonne donc les références de cet ouvrage. Il s'agit donc de Jean-Pierre Diques, qui a écrit un livre qui s'appelle La blessure, aux éditions Clovis, pour 98 francs. Livre qu'on peut acheter par correspondance à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes, Cedex, comme téléphone 01 69 78 30 23. Et qu'on peut trouver en librairie à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, 75005 Paris. Donc téléphone 01 43 25 36 67. La librairie Saint-Nicolas est tout à côté de Notre-Dame. On peut le trouver à la librairie du Ken, on peut le trouver à la procure de Mézières. Et je signale que le docteur Diques fera une conférence le mercredi 1er avril à 20h30 à l'église Saint-Nicolas, donc qui est à côté de la mutualité, et il dédicacera son livre à partir de 19h30. Donc les gens qui voudraient le rencontrer et se faire dédicacer le livre, donc le mercredi 1er avril à 20h30 à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay.
Merci Monsieur Labbé, vous restez avec nous. Alors je rappelle autour de cette table Monsieur Labbé Grégoire Cellier, Éric Lebec, qui est écrivain et qui est historien. Historien de l'Église, bien que vous n'ayez abordé, Eric, que deux périodes très éloignées l'une de l'autre dans vos ouvrages. Une période qui est la diplomatie secrète du Vatican, qui insiste plus particulièrement sur la période contemporaine, et puis une autre période avec le journal d'émission du Père Monnoir, qui est la réévangélisation de la Bretagne au XVIIe siècle face à l'infestation démoniaque.
Là, c'est vraiment le Père Monnoir, le bienheureux Père Monnoir, puisqu'il a été béatifié par Pie XII, qui est l'historien. Je n'ai fait que faire une introduction et des notes à ce texte du XVIIe siècle qui a eu une influence énorme dans l'histoire de l'Église, mais qui n'avait jamais été publié. Il a eu une influence énorme parce qu'il a été utilisé par Saint Vincent de Paul et par beaucoup de gens comme méthode pour les confesseurs, afin que les confesseurs puissent découvrir qui est coupable de commerce avec le démon et quelles accusations ils doivent attendre, éventuellement explorer ou susciter, afin que le pénitent puisse recevoir l'absolution. Donc c'est un document. Là mon travail d'historien doit beaucoup au hasard.
Oui, mais il y a beaucoup de notes. Il y a un appareil critique qui accompagne le journal du Père Monnoir qui remet bien en situation et qui éclaire bien les choses.
Je vous remercie. Ces notes m'ont paru nécessaires parce que le texte est quand même un texte écrit en 1650, envoyé à Rome Les faits sont de 1650. La relation de Mounoir est faite 20 ans plus tard. Elle est envoyée au général de la Compagnie de Jésus. C'est donc un document tout à fait officiel que Julien Mounoir envoie au père général de la Compagnie.
Et c'est un document ahurissant, il n'y a pas d'autre mot, c'est stupéfiant à lire. On est littéralement d'abord émerveillé par la qualité des prêtres, comme le père Mounoir, ouais. Qualité qu'on ne trouve plus maintenant que dans la tradition, c'est bien clair, sauf exception trop rare.
Tous ces grands prêtres bretons et vendéens qui ont fait la Bretagne et la Vendée contre-révolutionnaire. Ouais. Hein. Ouais. C'est parce qu'il y avait une imprégnation très forte par le père Hinon de Montfort, etc., le père Mounoir, et que la Bretagne et la Vendée ont résisté. Ça ne s'est pas tombé du ciel.
Mais alors, ce qui tombe du ciel, c'est le caractère miraculeux des événements, parce que véritablement, on ne peut pas imaginer que le père Mounoir et inventer les péripéties qu'il compte. Et alors, on a véritablement l'impression que le ciel est présent en permanence dans la vie des hommes, qu'il intervient d'une façon discrète, bienfaisante, évidemment, mais qu'il intervient quand même comme on intervient auprès d'enfants en disant, là, tu vas faire une bêtise, donc on met une petite tape sur les doigts, ou on aide à éviter la bêtise. Et par moments, on se dit que le ciel semble intervenir moins régulièrement maintenant. C'est un peu le sujet de ce dont on va parler, c'est un peu le sujet qu'on va évoquer ce soir. Est-ce que le ciel se détourne de nous? Est-ce qu'il est encore présent? Est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas ce qu'il a à nous dire ou ce qu'il tente de nous dire? Alors pour en parler, donc à côté d'Éric Lebec et François Plantet, qui est médecin, mais il n'est pas là ce soir comme médecin, encore que toute sa vie étant pleine de cette, est-ce qu'on peut dire, de cette science, de cet art.
Oui,
chaque fois qu'il évoque une question, c'est fort de sa formation de médecin, mais c'est surtout parce que François Plantet est un ami qui réfléchit depuis, qui médite, qui travaille depuis longtemps sur ces questions et qui a une connaissance, il va m'en vouloir si je dis ça, mais disons une bonne connaissance non seulement des écritures, mais des écritures dans leur texte original.
Ah, oui.
Il lit la Bible en hébreu, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il la comprend, ce qui est donné encore moins. Et puis, naturellement, nous sommes tous réunis autour d'Alexis Sarrette. Alors, pour moi, si j'ose reprendre une expression qui est en usage le lundi, c'est un immense bonheur pour moi de recevoir Alexis Sarrette, parce que c'est un des grands hommes de la famille. Il incarne, à mes yeux, toute la tradition. C'est-à-dire qu'Alexis Sarrette est un paysan, dans le sens le plus noble du terme. C'est un chrétien, je crois pouvoir le dire. Et c'est un philosophe. Si Gustave Thibon a besoin d'un successeur, je crois que ça y est, on l'a trouvé. Mais on va peut-être attendre que Gustave Thibon décide si lui-même a besoin d'un successeur ou pas. Mais en tout cas, je crois qu'on est sur la bonne voie pour avoir quelqu'un qui apprendra le flambeau. Et il a écrit un très 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 beau livre qui s'appelle « On m'appelait Bleu de Noir ». Où on l'appelait Bleu de Noir,
on m'appelait
Bleu de Noir, qui est un livre très émouvant, d'une écriture magnifique, et qui raconte la vie de combattant d'Alexis Sarrette, qui a été un soldat, et pas dans les guerres les plus faciles, et qui raconte avec une honnêteté, une franchise admirable, dans un style somptueux, il faut le dire. Il a écrit un autre livre récemment, qui est plus une compilation, mais très intéressante, sur l'Europe, en quelque sorte, le paysan français face au broiement européen, face au démembrement européen. C'est un gros livre très intéressant. Et puis, il vient de publier quelque chose qui est un livre magnifique, dont le titre est fort beau, « Les dieux du crépuscule ». Et quand j'ai lu ce livre, une phrase qui était... Un aspect du sujet foisonnant de ce livre m'a attiré mon attention tout de suite, et cet aspect, il est résumé dans le prière d'insérer du livre. Alors je vais vous le lire, c'est très court. Quel rapport existe-t-il entre les pandémies du sida ou de l'Ebola, les messes noires, les sacrifices d'enfants, la religion du progrès et les maîtres de l'or qui se sont ménagés des forteresses secrètes dans la crainte d'une insurrection généralisée des peuples démunis? Là, je crois qu'on est au cœur de cette question. Est-ce qu'il y a un rapport entre des événements qui, apparemment, n'ont pas de lien entre eux. Est-ce qu'il y a un rapport entre les messes noires, les disparitions d'enfants, les assassinats d'enfants, j'ajouterais la vache folle et le sacrifice des poulets en Chine, les tremblements de terre. Est-ce que tout ça a un sens, ou comme on disait, ou comme on dit dans l'église conciliaire, monsieur l'abbé, vous m'en direz si je me trompe, est-ce que ça fait sens quelque part? Alors, on va en parler maintenant, mais Alexis Arrête, la première question, qu'est-ce qui vous a amené à penser que vous deviez intituler ce livre « Les dieux du crépuscule » ?
Ou tout simplement par analogie avec le crépuscule des dieux. Simplement, il fallait montrer non pas seulement que nous étions au point terminal de notre cycle historique, mais peut-être aussi comment y avions-nous été amenés. Et alors, c'était dans la confusion, même l'image de la couverture n'est pas, comment dirais-je, est vraiment conçu pour exprimer cela, c'est un génie entouré de fumée. Or, je crois actuellement que les génies du mal se manifestent dans la fumée. Les faux dieux se manifestent toujours par le mensonge et la fumée. Vous avez parlé tout à l'heure, mon cher Serge, de mon maître et ami Gustave Thibon. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai mis en exergue du dernier chapitre cette phrase que je trouve très belle et qui explique que parfois le silence de Dieu, car il s'agit d'un certain silence maintenant, même la Vierge Marie a interrompu ses messages. Eh bien, Dieu n'a qu'un moyen de nous délivrer du mal, c'est de nous livrer au malheur. Je crois qu'il y a des instants, effectivement, où c'est à travers l'événement et à travers le silence de Dieu que nous devons percevoir la gravité de la situation. Tout à l'heure, vous faisiez le bilan un peu de tout ce qui s'était passé dans l'université, dans l'armée, dans également, hélas, dans la religion. Vous n'avez pas fait mention du désastre agricole, car on peut dire que le paysan a été absolument laminé, qu'il est exterminé. Ce ne sont plus maintenant que des sursauts sporadiques, mais le paysan n'a plus aucune puissance d'impact sur les événements. Il est un suiveur. La campagne ne peut servir que de lieu de retraite pour la future armée française, en quelque sorte, et populaire qui se formera face aux événements et à laquelle je travaille. Mais ce qui m'a amené à ces conclusions, en quelque sorte à traiter dans les dieux du crépuscule de la fin des temps, c'est d'abord le message d'une petite juive qui s'appelait Simone Veil, et que je ne veux pas confondre évidemment avec sa repoussante homonyme, mais moi j'avais été très impressionné lorsque j'avais lu Simone Veil, à, je pense que j'avais 16 ans, lorsqu'elle avait écrit, c'était, voyons, les intuitions pré-chrétiennes. Et il me semblait que cela corroborait la pensée d'autres grands catholiques, comme Peggy, par exemple, qui a écrit magnifiquement « Et les pas d'Alexandre avaient marché pour lui, et les pas de César avaient marché pour lui ». Et la théorie de Simone Veil, c'était qu'à travers l'histoire, et en particulier à travers l'histoire païenne, on pouvait remonter toutes les grâces divines qui avaient permis l'émergence de certaines civilisations qui étaient civilisations incomplètes puisqu'elles n'avaient pas la révélation, mais qui étaient des approches quand même d'hommes de bonne volonté. Et il ne faut pas oublier tout de même, n'est-ce pas, la parole de l'apôtre, la parole de l'apôtre Saint Jean, qui est mon préféré, on a ses préférences dans ce domaine aussi, n'est-ce pas, le Verbe est la véritable lumière de tout homme venant en ce monde. Tout homme venant en ce monde. Ça signifie que tant qu'un homme est vivant, il est relié organiquement et spirituellement à la vie. Il s'agit simplement de remonter le lien, de le redécouvrir, c'est-à-dire de dépouiller le vieil homme, de dépouiller nos encombrements, et à ce moment-là, dans le silence du monde, et puis quand on a fait le silence du monde en soi, je crois qu'on retrouve la voix de Dieu. C'est ce qui nous manque actuellement. Mais alors j'ai essayé de faire un peu cela, j'ai essayé personnellement de me désencombrer autant que j'ai pu du monde, je n'y suis pas parvenu parce que je suis très engagé quand même dans les activités, mais en suivant ce qui me paraissait être l'essentiel. Je me disais, quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est le bonheur des hommes. Or, le bonheur des hommes, nous le voyons autour de nous, il n'est pas donné par le monde. Regardez ces visages tristes que nous avons autour de nous. Regardez le métro.
Ah, ici, mais... Il n'y a pas de visage triste.
Mais enfin, autour de nous, lorsque nous serons sortis de ce ghetto bienheureux, eh bien, quand nous nous retrouvons des gens pressés, des gens inquiets, des gens qui sont tragiquement inquiets.
Parce qu'ils ont peur.
Ils ont peur. Ils ont peur, Serge. C'est ça. Je vois chez moi les paysans qui sont endettés, n'est-ce pas, au-delà de toute mesure, puisque l'endettement par exploitation, par jeune exploitation, c'est 60 millions d'anciens francs, ou 65, ou peut-être 70 maintenant. Ils ne pourront jamais rembourser. Ils sont dans une galère qui ne finira pas. Et ils le savent. Et n'empêche, c'est le marche ou crève. Bon, et ça n'est, la société est constituée ainsi. Prenons un autre exemple, par exemple, de déchéance extraordinaire. Les sels, dont vous avez peut-être entendu parler, cette nouvelle organisation économique qui prétendait baser une nouvelle société sur l'entraide et sur le service, de sorte qu'on évitait le signe monétaire, il n'y avait qu'un signe de valeur du travail. Ça fonctionnait très très bien. Ils viennent d'être condamnés pour entorse à la liberté de travail. On va les ruiner, de sorte que l'entraide en France, le service...
Je vous arrête un instant, parce que oui. J'ai publié dans le Libre Journal Courtoise, il y a un mois ou deux mois à peu près, un article sur les sels où je disais... Ça va être interdit, évidemment.
Voilà, évidemment.
On va les tuer judiciairement. Ça avait commencé d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que le système ne peut pas tolérer.
Voilà. Il faut absolument passer par César. Et maintenant, pour travailler, il faut payer l'impôt. Pour rendre la charité même sera payante. Il faudra payer pour faire la charité.
Monsieur, je voudrais vous poser une question, parce que puisqu'on a un représentant de la puissance spirituelle ici et de l'Église en tant que référent de la vie quotidienne. Est-ce que le propos, je crois que c'est Saint Augustin qui disait que quand la tyrannie devient insupportable, on a le droit de se dresser contre la tyrannie. Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation là maintenant?
Oh ben, il y a certainement, effectivement, le fait qu'aujourd'hui la charité soit taxée, si vous voulez, enfin soit taxée, soit contrôlée, soit vérifiée, est extrêmement typique d'une chose qui est essentiellement spirituelle et individuelle. Et qui doit devenir étatique et obligatoire dans les limites de l'obligation, si vous voulez. Ça, là, on est tout à fait dans une tyrannie, mais une tyrannie qui est générale, parce que même un point de vue politique, si on donne cet exemple-là, les théologiens moraux du XVIIe siècle, Père Mounoir en est un exemple, les théologiens moraux du XVIIe siècle estiment que si l'impôt est trop élevé, donc les charges de l'impôt sont très élevées, il est tout à fait permis de s'y soustraire en soi. Il est obligatoire de servir le bien commun, mais si les charges de l'impôt sont trop élevées, il est permis de s'y soustraire. Or, les théologiens moraux de l'époque, du XVIIe siècle, considèrent que de 5 à 10% d'impôt, ça devient totalement intolérable. Nous en sommes à 50%. Je veux dire, on est ce que nos ancêtres n'ont jamais, par exemple, accepté ce que nous vivons à tous les instants, c'est-à-dire la TVA, la taxe sur le sel, ça n'a jamais été accepté. Et lorsque l'on se rebellait contre les gabelous, le bon peuple chrétien trouvait ça normal. Il le faisait pas toujours parce que bon, on a une famille, etc. Mais il trouvait ça.
Au XVIIe siècle, une grande révolte, qui est la révolte des bonnets bleus et la révolte des bonnets rouges, qui est une sont des révoltes paysannes contre la fiscalité que le roi essaye d'imposer à la Bretagne. Bon, les révoltes ont été sanglantes, elles ont été manipulées. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Mounoir est intervenu à ce moment-là pour mettre fin à la guerre civile qui commençait de ravager le pays.
Alors, on parlait de signes tout à l'heure, parce que c'est ça le sujet, en fait, c'est les signes, les intersignes. Est-ce que le ciel se manifeste par des signes dans la situation actuelle? Et vous venez de nous donner un signe quand même qui est tout à fait frappant. Alexis Sarret nous dit à l'instant que le système des sels vient d'être condamné et qu'il est donc il disparaîtra probablement par force et violence, et vous nous rappelez que un des grands motifs de révolte sous l'Ancien Régime, c'était la taxe sur le sel qu'on appelait la gabelle, et dont les percepteurs étaient appelés les gabelous, qui sont devenus les douaniers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un signe là-dedans
si, même dans le terme lui-même, moi je pense. Le sel étant le symbole de la vie.
François Plantet... sur cette question du sel, est-ce que ça vous inspire un commentaire?
Je pense à ce que dit un grand théologien du 19e siècle, Capucin Balmès, qui disait: il n'y a pas de problème insoluble qui puisse être résolu en étudiant les mots. Les mots, oui. Pourquoi? Parce que l'univers a été créé par le Verbe. Ça, c'est clair, tous les théologiens sont d'accord là-dessus. Et aussi, vous savez que je me penche depuis des années dans la théologie mystique hébraïque d'avant le Christ. Toutes les traditions mystiques considèrent que le monde a été créé par 10 paroles. C'est le Vayomer, Vayomer, la première étant Bereshit, qui est considérée comme une parole. Voilà. Et Bereshit, dans le principe, puisque la vraie traduction c'est ça, c'est le mot roche qu'on trouve en arabe, ras, la tête, dans le principe. Ce principe est considéré par tous les pères de l'Église et par exemple Maître Eckhart, pour lequel j'ai une grande affection, comme le Verbe de Dieu lui-même. C'est le Verbe, c'est le Christ, et les théologiens mystiques de la synagogue avant Christ n'avaient pas d'autre interprétation que ce Verbe. Donc, si le Créateur crée le monde par son Verbe, il est évident que chaque mot à sa vibration personnelle qui est capable de faire bouger des mondes. Le rabbi Moshe Botril de béni mémoire disait il n'y a pas un point dans la Bible, donc il pensait aux points qui sont au-dessus des accents, etc. D'ailleurs on a perdu la signification, qui s'il est touché n'engendre des montagnes de signification dans le cosmos.
Et le Christ
dit la même chose, il dit pas un iode, puisqu'il parle en araméen, qui est une langue extrêmement voisine de l'hébreu, et il dit donc un iode, la lettre la plus petite, mais qui en même temps symbolise la Trinité, parce qu'elle a trois parties, et ceci était parfaitement connu des anciens maîtres de la synagogue avant le Christ, qui savaient que... Donc, il est vrai que c'est ce qui explique la puissance du nom de Dieu. On ne fait pas assez attention aux formules dans la messe. Je prendrai et j'invoquerai le nomen domini in vocabo, quand le prêtre lève l'hostie, notre secours adiutorium nostrum in nomine domini. C'est extrêmement puissant, Et ce nom du Seigneur est d'autant plus puissant, sa puissance est manifestée dans le psaume 91, quand Dieu dit, vous savez, c'est le psaume qui dit, celui qui habite dans le secret de Dieu, etc. Et à la fin, c'est Dieu qui parle et il dit: parce qu'il connaît mon nom, dit Dieu, je le sauverai. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est Eshuani, c'est-à-dire c'est les lettres de Jésus en hébreu.
Je le sauverai.
Voilà, c'est les lettres de Jésus, à une lettre près. Et parce qu'il connaît mon nom. Et c'est la même interprétation chez Origène et chez les rabbins de l'époque, enfin en particulier Rabbi Jikatilia, qui a écrit un très célèbre traité, Sharia Ora, les portes de la lumière. C'est, tu remarqueras qu'il est écrit, il n'est pas écrit, il prononce mon nom, mais il connaît mon nom. Donc la connaissance du nom de Dieu entraîne la connaissance de tout le cosmos et la possibilité d'ailleurs de profaner ce nom. Tu ne jureras pas en vain mon nom, ça va extrêmement loin. Et ce que disent nos théologiens, les pères grecs, latins et la patrologie syriaque, c'est la même chose que ce que dit le rabbi Jikatilia, Zikrono Lefrara, qui dit... dans sa première page, il dit: tu m'as demandé, mon cher ami, ami de mon âme, de te parler des noms divins. Non, il dit: oui, je vais t'en parler parce que j'ai vu que tu avais une intention droite, etc., et que ça t'aidera à aimer Dieu de tout ton corps, de toute ton âme. Enfin, c'est des formules superbes, mais il dit: attention à celui qui voudrait t'amener, qui viendrait te dire: je vais t'apprendre à prononcer les noms divins et avec cela tu pourras t'en servir. Ceux-là sont maudits, et deux pages entières d'exécration pour celui qui oserait se servir du nom de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien une possibilité de se servir du nom de Dieu. C'est toute la magie noire.
Oui.
Et puisqu'on parle des signes, il faut voir qu'une des premières instructions que donne Moïse, que donne Dieu à Moïse, c'est « Amechashefet loterhaye », c'est-à-dire « la sorcière, tu ne laisseras pas vivre ». Et on revoit constamment dans l'exode de Deutéronome, etc. « Vous adorez les Baalim cananéens, vous me sacrifiez vos enfants, je ne vous ai pas demandé ».
C'est une prostitution actuellement de la vibration essentielle.
C'est exactement ça, une prostitution profane et ignoble, je détourne les énergies divines, ces énergies dont vous avez parlé tout à l'heure, bien entendu, cette espèce de flux qui coule, que par exemple Hildegarde de Bingen a merveilleusement décrite, et que j'ai trouvé très voisine de ce que dit Saint-Denis l'Aéropagite dans son chapitre dans le traité des noms de Dieu sur les kéroubim et les séraphim, en montrant qu'il y avait une espèce de nécessité d'union par où l'énergie passe de Dieu jusqu'en bas de sa création, cette énergie qui coule, qui vivifie la viridité dont parle Sainte Hildegarde et qui peut être effectivement épouvantablement pervertie par une, comme une espèce de prothèse. On est en train de nous construire une prothèse, c'est-à-dire qu'on a détruit les cannes naturelles, on a détruit les réseaux campagnards, on a détruit tout ce qui faisait les hiérarchies.
Le terme même d'économie, qui est symbole simplement de dépenses, c'est une inversion formelle actuellement.
Exactement. Et alors, à la place de cela, c'est comme si on coupait les jambes de quelqu'un et on lui dit, maintenant, regarde le beau fauteuil à roulettes programmé avec un microprocesseur, etc.
Oui, c'est ça.
Donc, la valeur des mots est essentielle. Je pensais au mot sida, par exemple. Parmi les innombrables lectures que nous permet cette façon de voir, le mot sida, c'est les lettres de Sadé en hébreu, enfin Shin Dalet E, qui veut dire un démon féminin, un destructeur.
Oui.
Il n'y a pas de hasard. C'est un rabbin un jour qui me l'a pris alors que qui paraissait très très surpris de voir un médecin attacher de l'importance à ses sciences traditionnelles. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une vibration qui sort du réel. C'est comme ça, Dieu est une espèce de chant mélodieux qui parcourt sa création. Et on reconnaît, on voit tout de suite, par exemple, la manipulation génétique. Quand vous voyez ces clonages, même quand vous lisez dans les grandes revues scientifiques ces séries de codes à deux lettres, ça ressemble tout à fait aux manipulations des lettres hindues qu'on trouve dans le notaricone, par exemple, hein, dans ces visions de mystiques qui sont tout à fait valables, hein, c'est-à-dire cette lecture de la Bible sur la numérologie. Saint Augustin, par exemple, n'a pas hésité à éluder le nombre 153. Mais ces sciences, comme vous le disiez tout à l'heure, totalement prostituées, arrivent à une manipulation répugnante, mais on reconnaît clairement le degré d'inspiration. La vérité étant une, il est évident que les gens ne peuvent utiliser que des caricatures de la vérité, mais quand même, à travers la caricature, on reconnaît l'origine.
Quand Alexis, quand vous dites, quand vous dites très précisément, quel rapport existe-t-il entre les pandémies de sida, le virus Ebola, les messes noires, les sacrifices d'enfants, la religion du progrès, les maîtres de l'or, d'où vient cette question? Est-ce que c'est une question intuitive ou est-ce que c'est une question qui naît d'une réflexion sur un appareil de signes?
Les deux. Excusez-moi d'être un peu approximative. Le père Thiers de Chardin n'est pas un de mes saints favoris, hein, disons. Il a dit une chose, tout ce qui monte converge, mais tout ce qui descend aussi converge. Et le Christ a dit à propos de l'empire de Satan, l'empire de Satan, s'il était divisé contre lui-même, ne subsisterait pas. Il y a une cohérence profonde dans le mal, dans l'égoïsme du mal. De sorte que cela m'a amené, cette simple parole évangélique m'a amené à chercher les relations. Et les relations, c'est une cohérence absolue, on les retrouve partout. L'un entraîne l'autre. C'est en quelque sorte, de même qu'il y a une sorte de vampirisme physique qui a été exploité dans le cinéma ou ailleurs, il y a un vampirisme spirituel également. Le mal ne peut que se nourrir de la vitalité que Dieu a mise en nous. C'est une forme de vampirisme. Il est coupé. Le mal est coupé de la source essentielle. Il ne peut plus s'abreuver à la source. Donc, c'est à travers nous qu'il veut s'abreuver. Il y a donc un vampirisme qui est induit dans toutes ces pratiques qui sont des pratiques d'exploitation. Et quelles qu'elles soient, que l'on en vienne au meurtre de l'enfant qui devient, au début, n'est-ce pas, il semblait que ce fût simplement une chose pratique pour aider les mères en difficulté. En réalité, cela a un aspect rituel. On sacrifie aux démons exactement comme un bloc.
Oui, je dois dire qu'il y a quelque chose qui me hérisse le poil de plus en plus, c'est que sans arrêt à la télévision, par exemple, on voit des émissions sur l'Amérique précolombienne où on nous dit, mais vous vous rendez compte, l'Amérique précolombienne, c'était l'horreur, sur les pyramides à degrés, on arrivait arrivait à égorger en une semaine 3000, 4000, 5000 prisonniers.
C'est ce que nous faisons.
Bon, et je dis, mais nous, on tue 200 000 enfants par an par l'avortement. Voilà. Et de quel droit on va donner des leçons aux précolombiens qui ont sur nous 2000 ans de retard? Donc nous, on a eu 2000 ans pour réfléchir.
Tout à fait. Et ce qui est impressionnant dans l'avortement, c'est que ça a été, la revendication n'a pas seulement été la liberté de l'avortement, ce qui peut se discuter, si vous voulez, on peut considérer que des gens qui ne croient pas...
Et d'un point de vue philosophique, voilà, on peut en parler autant
voilà. que... Mais la revendication était d'une part la liberté de l'avortement et d'autre part le remboursement par la sécurité sociale. Ça a toujours été au cœur des revendications féministes. Le remboursement par la sécurité sociale. Et ça a été l'une des premières choses par l'arrivée de la gauche, a été le remboursement de l'avortement à la sécurité sociale. Or, on déréférence de plus en plus de médicaments, et de plus en plus on protège l'avortement. Ce qui en soi, on pourrait dire, bon ben c'est du confort, c'est du... Non, vous voyez, il y a quelque chose. L'avortement, c'est pas un droit, c'est un devoir. Ça, c'est très typique de la pensée actuelle.
Et maintenant, c'est un délit de s'y opposer.
Voilà, c'est un...
Bruno Gollny, vous êtes resté, je vous en remercie, je vais vous poser une question. Est-ce que ce genre de considération, le sujet qu'on évoque ce soir, vous paraît relever à un moment ou à un autre de la sphère du politique? Est-ce que ce sont des préoccupations qui doivent intervenir dans la construction d'un système politique, d'un programme politique, d'un projet politique, ou est-ce que vous écartez complètement ces considérations-là?
Ah, je ne les écarte pas du tout. Je crois que c'est tout à fait essentiel. C'est tout le problème, notamment du complot. Alors, c'est un problème redoutable, d'ailleurs, parce que le complot peut être aussi un alibi de nos propres faiblesses. Il peut être facile pour nous de croire qu'après tout, si nous sommes vaincus, nous le devons au fait qu'un adversaire dont les forces sont très supérieures aux nôtres, et on le voit bien aujourd'hui, est parfaitement coordonné d'une façon secrète que nous ne parviendrons jamais à percer, et que par conséquent, après tout, il n'y a pas grand-chose à faire. On a vu certaines personnes qui succombaient à cette tentation de faiblesse. Mais je pense qu'il y a, nous en parlions tout à l'heure d'ailleurs, avant ces exposés tout à fait passionnants, je crois qu'il y a une intelligence dans le mal, et il y a une cohérence en tout cas dans le mal politique. Moi, sur ce plan-là, ma formation se borne jusqu'à présent à, l'examen de la révolution, mais de la révolution avec un grand R, de la révolution non pas en tant que phénomène social ou politique ponctuel s'exprimant par la violence, mais en ce qu'elle est philosophiquement, c'est-à-dire finalement l'expression politique du non serviam ou du refus de reconnaître qu'il y a un ordre dans l'univers et de la prétention de le fonder exclusivement sur la volonté humaine. C'est donc la traduction en politique, en quelque sorte, du péché d'orgueil. Et les anciens l'avaient bien pressenti, d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec le mythe de Prométhée. Mais je dois dire que, personnellement, je ne suis pas informé, je n'ai pas une culture comparable à celle de vos interlocuteurs, ce qui me met simplement en appétit pour la lecture de leurs livres. Je dois dire que j'avais déjà beaucoup apprécié, dans un genre tout à fait différent quand même, l'ouvrage le précédent d'Alexis Arrête Landresse, qui était absolument superbe en effet, et je vais me plonger dans Les Dieux du Crépuscule.
Je voudrais, Serge, oui, je voudrais apporter quelque chose que vous ne... qui vous a peut-être échappé comme à moi. J'avais besoin d'un manuel de l'époque historique, durant ce siècle-ci. J'ai pris la sélection du Reader's Digest qui vient d'éditer un volume en ce sens-là. Et il y avait une chose qui m'avait échappé, c'est que le soir du vote de l'avortement, alors que Madame Veil, épuisée par cet effort, sanglotait sur son banc, Monsieur Chirac lui a fait porter une gerbe de roses. cela m'avait échappé complètement. Et je trouve que cela est profondément symbolique et éclaire les événements qui se passent.
François Planté, vous avez sursauté quand Alexis Arrête a rappelé cet événement. De...
Oui, c'est vrai que c'est assez effrayant. Ça me rappelle d'ailleurs la symbolique d'une autre rose ailleurs. Et qu'on pourrait élucider, enfin c'est peut-être pas d'ailleurs, ça serait trop long, trop compliqué, mais il y a quand même derrière ça, même si les gens ne sont pas conscients, une symbolique qui est,
tout à fait,
qui est terrifiante.
Alors la question que moi je me pose toujours quand on évoque ces sujets, c'est est-ce que tout ça est conscient, est-ce que c'est inconscient, est-ce qu'on est agi comme on dit maintenant, est-ce que Chirac est agi quand il fait ça, ou est-ce qu'il est partie prenante consciente d'un univers de signes et de symboles qui est apparemment nécessaire au fonctionnement du maléfice.
Serge, j'ai écrit il y a quelque temps un petit article qui a passé inaperçu parce que évidemment je n'écris que dans des journaux qui sont relativement confidentiels. Je l'avais écrit dans Rivarol et j'avais intitulé « Et si Chirac n'était pas bête ?» C'est vrai, la première idée que l'on a de M. Chirac, c'est que c'est un imbécile, simplement. Mais il pourrait, après tout, être simplement un témoin du mal. Et toute sa vie, depuis l'époque où il vendait l'humanité adolescent, où il a été ensuite s'incliner sur la charogne de Lénine, ça a été quand même le premier homme politique français à le faire, quand ensuite il a adhéré à la FNACA, n'est-ce pas, après la guerre d'Algérie, alors qu'il était, semble-t-il, traumatisé, il aurait dû découvrir des choses, là-bas la FNACA était communiste à l'époque. Alors on se demande si même la dissolution ne lui a pas permis de rejoindre sa véritable famille, qui est la famille marxiste-léniniste. Il ne faut pas oublier que son grand-père franc-maçon a eu peut-être, comme je le dis quelque part, une certaine façon de le faire sauter sur ses genoux. Alors moi j'ai été effaré quand je l'ai entendu prononcer le réquisitoire qu'il a prononcé contre le Parti National il y a 3 jours. J'ai été effrayé par le visage, ce visage de pierre. Je me suis dit, ou cet homme est drogué, ou il est possédé. Car il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, à un certain moment donné, j'ai rencontré le général de Gaulle de près et j'ai senti instinctivement sur mon échine quelque chose se dresser. J'étais instinctivement, je suis un homme instinctif, un homme de la terre, je suis un chasseur. J'ai senti que c'était le mauvais qui passait, le menteur. Le menteur s'était incarné dans cet homme. Eh bien, j'ai ressenti un peu la même chose dans M. Chirac, le génie en moins, le génie du mal en moins, mais c'est l'instrument du mal. C'est lui, je l'ai dit quelque part, qu'il faut tirer sur le peuple, c'est à lui que sont remis véritablement les destins de l'enfer.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous venez de me faire noter quelque chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, c'est qu'effectivement, Chirac, en prononçant la dissolution, a envisagé une nouvelle coagulation.
Tout à fait.
C'était calculé, c'est solvere et coagulare.
Voilà.
Solvere et coagulare. Coaguler, c'est ce qui est l'œuvre satanique par essence.
Ah, tout à fait.
François, non, c'est à Éric Lebec que je voulais poser une question. On a l'impression, quand on lit le journal d'émission du Père Monnoir, que le mal était, comment dire, beaucoup plus maladroit, beaucoup plus voyant, beaucoup plus pataud au XVIIe siècle qu'il ne l'est aujourd'hui, et que, comme conséquence, ou comme corollaire, ou comme apparence conjointe, le bien était beaucoup plus lumineux, beaucoup plus visible et beaucoup plus sensible.
Mais il y a une chose qui est rigolote dans le journal latin de Monnoir, c'est que quelquefois le démon apparaît en particulier auprès des personnes qui le vénèrent ou qui lui sont affidées et assujetties. Et lorsque le démon apparaît, eh bien Monnoir raconte que on le reconnaît au fait qu'il ne peut pas éviter certains défauts. C'est-à-dire qu'il se présente, par exemple, sous les traits d'un marchand ou sous les traits d'un prêtre, et Monnoir donne ce détail avec le plus grand sérieux que les pieds de cette apparition vont trahir le monstre. et que les apparitions que le démon peut faire, qu'on appelle, je crois, des prodiges en théologie, eh bien, les apparitions que le démon est autorisé à faire sont des apparitions monstrueuses. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour la France du XVIIe siècle, eh bien, les pieds de ces marchands ou qui représentent le démon, que le démon utilise pour apparaître, eh bien, les pieds de ces marchands... ont des sont des pieds de coq, il précise, des coqs de Numidie. Je ne sais pas précisément pourquoi le coq de Numidie, bon, a des pieds griffus, voyez-vous donc. Et ce qui veut dire par là que lorsque le démon se montre, il se trahit, il est monstrueux, il est absurde, il est ridicule, il est méprisable, etc. Et que finalement le démon a tout avantage à ne pas se montrer. Et qu'il fallait des temps de grande chrétienté, il fallait des temps de foi, des temps de chrétienté pour que il ait le ridicule d'apparaître, voyez-vous.
J'entends les pieds. Cette question m'interpelle, comme on dit, au niveau du vécu, parce que on pourrait faire une théologie symbolique très très riche des pieds, parce que qu'est-ce qui différencie au départ le démon avant sa punition, tu remprends, c'est qu'il a plus de pieds. C'est vrai que la tradition, les traditions anciennes disent tout le temps, le démon peut faire des leurres d'être humain, etc., mais il a beaucoup de mal, ou il sait pas faire les pieds. Or, c'est vrai que...
Je savais pas que c'était une espèce d'usage de démonologie, que
après la chute, Dieu dit, parce que tu as fait cela, tu ramperas tous les jours de ta vie dans la poussière.
Donc il est privé de
pieds. Donc le serpent qui était probablement auparavant un dinosaure, un horrible serpent, Nahash, il devient quelqu'un qui a plus de pieds.
C'est exact.
Dans une partie très très importante de l'Exode, qui est Jacob. Jacob est, dans la théologie mystique de la synagogue d'avant le Christ, le patriarche du milieu. Hein. Isaac représentant la justice, Abraham la paternité, et Jacob est la force du milieu, et il va changer de nom. Mais dans l'histoire de Jacob, il naît en tenant un pied, ce qui est absolument fondamental, parce qu'en fait, il tient le pied de son frère Ésaü, qui, dont le nom hébreu signifie la facticité du monde, les forces. Et il le tient par les talons, et Ésaü est bouclé, velu, etc., représentant la force animale non contrôlée. Et cette force, pendant toute l'histoire de Jacob, il va être amené à la contrôler jusqu'à ce combat extraordinaire avec une créature dont qui est interprétée différemment suivant les pères.
Et dans le psaume, les enfants de Babylone sont saisis par les pieds afin que leur tête soit brisée
voilà,
sur les rochers.
Voilà. Et il va. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que Jacob se met en route, le texte dit puis Jacob leva les pieds et s'en alla. Hein. Or, il n'y a pas dans l'Écriture une seule parole en trop. Quand il est touché par l'ange après cette lutte, c'est le nerf moteur de la jambe, le nerf sciatique qui est touché sur sa jambe gauche. Hein. Oui. Donc à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'important. Et enfin, encore la symbolique des pieds qui sont le contraire du colosse au pied d'argile, qui est là encore pour nous montrer pourquoi l'implantation dans le sol est absolument fondamentale. Donc Jacob change de nom, il s'appelle Israël, qui vient du verbe charar, qui veut dire dominer sur, être fort. Donc c'est celui qui a dominé la force de Dieu. Et ensuite, quand Jacob est devenu Israël, d'ailleurs le nom change. Hein, tantôt il est Jacob, tantôt Israël, avec une très riche exégèse possible. Et quand il meurt, on dit « Jacob ayant béni toutes les tribus, leva ses pieds et mourut ».
Donc il y a une relation directe entre le pied et la voix.
Fondamentale, fondamentale. Et d'ailleurs, le serpent attaque la femme au pied.
Bon, c'est ça, oui.
Et je pense que le colosse au pied d'argile est là aussi. Oui.
Alors ce qui est important aussi...
Eric, pardon, je vous donne la parole tout de suite, mais je voudrais poser une question à monsieur l'abbé Cellier, qui est une question qui apparaît à travers certains messages. Est-ce que c'est légitime, ce genre de démarche intellectuelle, ce genre de réflexion sur les signes, sur le sens caché ou apparent de l'écriture, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne?
Disons, c'est à la fois légitime et dangereux, comme tout ce qui est d'une grande richesse, puisque le signe, et ça je pense que les autres personnes présentes, est toujours à deux faces. Il y a la face bonne et la face mauvaise. Pris dans le bon sens, le signe est très riche, il est lumineux. Pris dans le mauvais sens, il est au contraire, car l'occultiste ne fait pas autre chose qu'utiliser les mêmes signes dans le sens mauvais. Le démon utilise le même signe dans le sens mauvais, voyez-vous. Ce qui est dans la tentation de notre Seigneur, donc la triple tentation après le désert, le démon propose des choses qui sont en soi bonnes, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Il lui propose, par exemple, de manifester sa mission par un grand miracle, en se jetant du haut du temple. Mais ce signe, à ce moment-là, prend un sens maléfique, parce qu'il n'est pas dans l'ordre, il n'est pas au bon endroit. Donc en soi, le signe, il est évident qu'il n'y a pas autre chose dans la révélation qui est une parole, n'est-ce pas ? La parole est un signe, hein, n'est-ce pas ? Le langage est un signe. Et le signe, il est soit bon s'il est pris du bon sens, soit mauvais s'il est pris du mauvais sens.
C'est le lecteur qui, en quelque sorte, c'est le décrypteur.
Ce n'est pas seulement lecteur. Les signes sont objectifs et ils sont dans une grammaire entre eux. Il y a une cohérence d'ensemble, si vous voulez. On peut se tromper sur un signe, on ne se trompe pas sur un ensemble. On ne se trompe pas sur une phrase. On se trompe sur un mot, parfois, mais pas sur une phrase.
Donc, on peut se tromper de bonne foi, mais on peut pas se tromper de bonne foi sur l'ensemble, mais si on a une mauvaise foi, on peut là se tromper et tromper autrement. Ouais.
La messe noire est très très typique puisqu'elle va à l'envers.
C'est l'inversion du signe.
Elle inverse. On inverse les paroles, on inverse le sens. On part de la fin pour aller vers le début et on met les paroles à l'envers. Bon, c'est un symbole grossier, mais d'une réalité que le signe est inversé. Et je dirais, pour revenir à une question que nous avons évoquée il y a quelques instants. Et que M. Gollnisch a parlé, y a-t-il un complot, y a-t-il pas de complot, est-il conscient ou n'est-il pas conscient? Moi je pense qu'entre le bon, qui est conscient de faire le bien, et le mauvais, qui est conscient de faire le mal et qui le veut, je crois qu'il y a un intermédiaire. Comme disait quelqu'un que j'apprécie, qui n'est pas un grand mystique, qui s'appelle Céline, il dit, nous sommes en pétard de mystique. C'est-à-dire que, je crois que c'est une bonne expression, nous sommes en pétard de mystique, c'est-à-dire, il y a des principes métaphysiques fondamentaux qui font que sur le côté extérieur, nous pouvons nous trouver dans une politesse, mais au moment des grands choix, il y a une divergence de fond parce que les principes de fond. Et c'est lorsqu'on se dit, mais pourquoi ces gens sont-ils si méchants brusquement alors que jusqu'ici nous étions courtois, etc. Parce qu'il y a des enracinements de fond et ça, je crois que c'est fondamental. Il y a derrière, il y a des gens qui réagissent selon des principes de fond et qui expliquent que il n'y a pas seulement le petit groupe moteur, mais qu'il y a aussi tous les gens qui vont avec et qui soutiendront le mal au moment opportun. Non pas qu'ils aient eux-mêmes choisi de vouloir faire le mal, mais ils sont dans ça. Les hommes politiques sont très typiques. Pourquoi les hommes politiques sont-ils si peu courageux aujourd'hui? Pourquoi? C'est étonnant, je veux dire. Pourquoi est-ce que le moindre article leur fait peur? Parce qu'ils ont des mœurs corrompues. Ils ont des mœurs corrompues, et donc, dans le fond de leur tripe, ils sont du mauvais côté, voyez-vous? Et c'est ça qui est le problème. Et donc, au moment où il faudra réagir, il faudra être courageux, eh bien, toutes leurs tendances les orienteront dans autre chose. Et je crois que ça, c'est un point important. Il y a quand même, au fond, il y a quand même des métaphysiques, il y a quand même des théologies, et comme vous dites, l'idéologie du progrès est typique. Quand quelqu'un est imprégné de l'idéologie du progrès, il est du mauvais côté. Ses réactions fondamentales seront mauvaises. Elles pourront être superficiellement bonnes, mais fondamentales, elles seront dans le mauvais sens. Et je crois que ça, c'est important, et ça explique, au-delà du méchant tout à fait conscient, c'est un petit nombre très actif, très intelligent, très organisé, il y a le grand nombre. Et pourquoi est-ce que la civilisation ancienne nous paraît bien meilleure sur le fond que la civilisation aujourd'hui? Parce que justement, les élites avaient la bonne métaphysique malgré leurs péchés. Louis XIV n'est pas un modèle. Mais quand Louis XIV écoute, c'est un épisode très très typique, du fond. Louis XIV écoute un prédicateur. Le prédicateur tonne de façon effrayante, et notamment sur l'adultère. C'est le sermon, sur l'adultère de David ou je sais pas quoi. Et à la sortie, les courtisans, c'est pourtant qu'il y a un système de courtisanerie qui n'est pas toujours très sain autour de Louis XIV. Courtisans, dit Louis XIV, vous avez entendu, sire, votre majesté, ce qu'a dit ce prédicateur, c'est scandaleux, enfin voyez, etc. Et Louis XIV lui répond ce qui est l'homme ancien. Le prédicateur a fait son devoir de prêcher la vérité, à nous de faire le nôtre. On sait qu'on est pécheur, faible, mais on sait qu'il y a la vérité. Maintenant, le péché est le bien. Je crois que c'est là la différence essentielle. Et au niveau des élites, pas au niveau du petit peuple, parce que le petit peuple a toujours suivi les élites, mais au niveau des élites.
Et à chahiter.
Oui, si vous voulez. Mais je crois qu'il y a effectivement dans les élites cette mauvaise métaphysique, cette mauvaise théologie liée aux mauvaises mœurs. Et donc, même si sur certains points nous allons pouvoir, soit dans la politesse, soit pour un bien ponctuel, nous retrouver, sur le fond, non. Et c'est l'origine de la haine profonde. L'origine de la haine profonde qu'on s'explique pas. Parfois, il y a des explosions de haine, je veux dire, qui sont extraordinaires. Nous le ressentons.
On a l'impression de recevoir quelque chose de fétide.
Voilà. C'est très typique de nous, au point de vue religieux. Nous rencontrons des prêtres qui ne nous disent rien. Nous venons les saluer ou nous les croisons, etc. Et parfois, il y a des réactions d'une violence tout à fait étonnante. Qu'y a-t-il au fond? Il y a au fond, nous sommes en pétard de mystique. Je crois qu'il y a quelque chose de vrai.
Je voudrais revenir sur cette question de l'exégèse et des mots, etc., pour une raison d'actualité. Il se trouve que je viens de regarder les cassettes d'une émission de télévision en 12 volumes, en 12 heures, qui va être diffusée, bien évidemment, au moment de la Semaine Sainte et de Pâques, et sur Arte, et non seulement sur Arte, mais aussi sur la 5e. C'est donc un gigantesque effort de télévision, parce que si on peut se rendre compte de ce que c'est que la programmation de 12 heures de télévision, le budget que ça réclame, les sommes de droits d'auteur qui vont être acquises par les réalisateurs, la rémunération des producteurs, c'est un budget énorme, c'est un effort gigantesque de télévision, et il s'agit d'une série qui, comme par hasard, porte un nom latin, Corpus Christi, et cette série de télévision est l'une des choses les plus effroyables que j'ai pu regarder. D'abord, c'est épouvantablement ennuyeux, si bien que je pense que
ça limite
des dégâts. Hein. C'est atrocement ennuyeux. C'est une série d'interviews de spécialistes, d'exégètes, mais enfin, bien entendu, ils sont choisis tous dans une seule école, et c'est l'école qui considère que les évangiles ne sont pas historiques. Et donc, ils utilisent les textes des évangiles pour en contourner le sens historique, le sens premier, etc. Donc, il y a effectivement toute une école d'études de l'écriture où la lettre tue l'esprit. Et on le voit là, ce sera malheureusement le cadeau de la télévision française à Jésus-Christ au moment de la Semaine Sainte et du temps pascal, Corpus Christi, qu'on se méfie.
C'est déjà passé.
Une répétition de ce qui a été diffusé l'année dernière, et je crois que Serge de Beketch avait d'ailleurs fait un article à ce sujet, et pour une autre partie non négligeable et très importante, parce que cette fois on s'en prend à la résurrection elle-même, eh bien ce sont des tournages, ou plutôt des montages entièrement nouveaux. Je crois que tout ça a été tourné en même temps, et que maintenant ils tirent à la ligne et ils utilisent le matériel qu'ils ont pour pouvoir continuer leur travail. Et c'est fait par un réalisateur, il y a deux réalisateurs, il y en a un qui est très connu pour être un militant communiste.
Bien sûr.
Non, Mortier.
Alexis Arrête, ce livre, Le Crépuscule des Dieux, est-ce que vous le considérez comme une... Enfin, je ne veux pas vous investir de pouvoir que vous n'avez pas, mais comme une sorte d'exorcisme. Ou un livre de combat, ou un livre de...
Je pense que c'est un livre de combat, surtout. Vous savez... Il n'y a absolument nul génie là-dedans. C'est un peu une compilation.
Si toutes les compilations étaient de cette qualité, on se
mais fait, c'était on pas trop non. Ça. Pourtant, ce n'est que cela. Et j'ai simplement essayé d'être cohérent avec des textes qui ne le sont pas à première vue. Et je les ai assemblés simplement. Mais de cet assemblage même, il ressort une nécessité. Voilà. Et cette nécessité, vous la traduisez en termes de combat, je crois que c'est effectivement là qu'il faut la situer. Je voudrais, et je m'efforce de le faire au sein de plusieurs organisations que j'ai montées un peu, comment dirais-je, d'une façon un peu hasardeuse, mais j'essaie de rassembler des gens qui n'avaient pas conscience de l'urgence du problème. Or, le problème est extrêmement urgent maintenant. Or, il y a dans la nature quantité de petites organisations qui travaillent presque toutes dans le même sens et qui s'agirait de fédérer en quelque sorte, d'une façon, très souple. Mais pourquoi? Parce que nous sommes face à un événement qui est maintenant prévisible à brève échéance. Et il nous reste donc peu de temps. Je sais bien qu'on a utilisé cette formule il y a 2000 ans, encore un peu de temps et vous me reverrez, mais bon, il fallait le situer. Mais
on n'a pas le même temps.
Non, du tout, du tout. Et maintenant, le temps véritablement nous presse. Nous savons qu'avant la fin du siècle, car tout de même, les avertissements aussi, que personnellement, auxquels personnellement je crois, les avertissements de la mère de Dieu, oui. Je crois qu'ils nous incitent maintenant à rester réveillés suivant la parole de l'apôtre. Or, rester réveillés, est-ce que cela signifie, n'est-ce pas, qu'il faut simplement attendre la venue des événements dans la prière et dans la contemplation? Je pense que, bon, des hommes sont destinés à diverses fonctions. Personnellement, je suis un combattant. Il y a des gens qui sont faits pour se battre. Après tout, il y avait une classe qui était faite pour cela autrefois. Même à mon âge, je me sens encore, si vous voulez, assez performant dans ce domaine-là. Il faut véritablement, si Dieu, après tout, qui n'a pas besoin des hommes, mais s'il faisait semblant d'avoir besoin des hommes, il faudrait que nous soyons là. Et le livre que j'ai écrit, c'est dans ce sens-là. Se mettre à la disposition de Dieu, ou du moins de la morale prêchée par Dieu, de la conduite que requiert la loi universelle, qui est la loi de Dieu, afin que le monde, bon, nous ne pouvons pas le sauver, nous pouvons peut-être aider à son salut.
Je voudrais que votre livre soit lu parce que je voudrais qu'il arrive à convaincre chez nous. Il y a des messages qui arrivent, là, il y a pas beaucoup, mais il y a deux ou trois messages qui arrivent qui sont messages d'une extrême hostilité et qui reposent toujours sur le même argumentaire. Vous avez, j'ai évoqué à votre propos Gustave Thibon, vous avez cité Simone Weil, François Planté a parlé de Maître Eckhart, et on nous dit, voilà, ça y est, vous êtes démasqué, vous êtes agnostique, vous n'êtes pas catholique, vous êtes, etc. Alors, moi, je veux bien entamer des débats, non plus finir sur ces questions, mais je pense qu'il y a un minimum d'intelligence des choses à poser en préalable à une conversation. On peut pas tout le temps réapprendre l'alphabet et le vocabulaire primaire à quelqu'un avant de lui donner un livre à lire. Hein. Donc, une fois pour toutes, nous, ici, autour de cette table, il n'y a pas plus de gnostiques que de beurre en broche.
Ou alors, c'est dans la pleine ignorance.
Bon, nous sommes des catholiques autant que possible respectueux de notre Sainte Mère Église. Je veux dire autant que possible, totalement respectueux de notre Sainte Mère Église, autant que possible respectueux de ses commandements. Et nous essayons simplement d'appliquer aux choses de la foi la matière étrange dont le Seigneur a rempli notre boîte crânienne.
Tout à fait.
Voilà.
Je voudrais signaler que Saint-Denis l'Aéropagite est avec Saint-Augustin le théologien qui est le plus cité par Saint-Thomas d'Aquin. On ne peut pas aller plus loin dans les références protectrices, antignostiques.
Il existe un dictionnaire de tous les symboles de la Bible, publié par l'Abémi, qui est tiré des pères de l'Église. Alors bon, que se lèvent donc les pères de l'Église qui viennent...
Voilà, moi je crois que c'est quand même très important d'appliquer notre intelligence et notre regard, et notre perception à ce qui se passe autour de nous. Et je voudrais citer un exemple. On parle énormément depuis quelque temps d'un film qui s'appelle Titanic. C'est un film qui vient d'être couronné par je sais pas combien d'Oscars à Hollywood. On a vu le spectacle du metteur en scène de ce film brandissant la statuette qu'il venait de recevoir, en écartant les bras et en criant devant toutes les télévisions du monde, puisque toutes les télévisions du monde étaient là, « I am the king of the world », je suis le roi du monde. Bon. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un bond, j'ai dit, voilà, l'affaire est signée, ce film est un acte satanique. Ah. Il faut savoir que dans ce film, on voit à un moment le héros, le jeune héros du film, qui mime à l'étrave du bateau une crucifixion, puisqu'il écarte les bras dans le vent, et il crie, I am the king of the world. Je suis le roi du monde. Avant cet événement, il était dans les entrailles du navire, enchaîné pour avoir tenté de vouloir venir dans les premières classes. Et c'est une femme qui va renier la foi jurée puisqu'elle se défiancie en quelque sorte, par amour pour cet homme qui est dans les entrailles du navire, qui va venir et qui va lui enlever les menottes. La symbolique de tout ça, c'est effectivement le déchaînement de Satan qu'on va chercher dans les entrailles du monde et qu'on porte à la lumière pour en faire le roi du monde. Est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est pécamineux de regarder un film avec cet œil-là ou de regarder avec le film, avec l'œil ahuri d'une jeune midinette en train de feuilleter le dernier numéro de Nous Deux? un film, c'est porteur d'un message, c'est porteur d'une vérité qui dépasse largement les volontés des auteurs. Et là, on voit très bien qu'il y avait une volonté avec le Titanic de faire comme avec le bateau, qui était un défi au ciel proclamé, puisque quand le bateau a appareillé, sur la coque du bateau, il y avait des phrases qui disaient plus fort que Dieu, jamais Dieu ne pourra nous faire couler, etc. Et le titan, qui est l'ennemi de Dieu. Donc le film a été fait comme une répétition du défi diabolique que constituait ce bateau. Et pour l'instant, à la différence du bateau qui a été coulé par un iceberg, le film, lui, il est couronné par l'iceberg, du fric dans le monde.
Ouais, oui, c'est un signe.
C'est le film qui va rapporter le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Alors, c'est ce qui me fait dire, encore une fois, que ça a provoqué la colère d'une auditrice qui me dit, mais c'est pas vrai du tout ce que vous racontez, mais c'est peut-être moi qui suis aveugle, mais j'ai l'impression que le ciel est avare de signes en ce moment. Monsieur l'abbé Zélier.
C'est-à-dire que nous ne lisons plus les symboles.
Voilà, nous ne sommes plus à l'écoute. Donc c'est comme la radio, si j'ai pas de récepteur, la radio émet toujours, mais je ne l'entends pas. Donc le bon Dieu nous donne des signes, il nous donne les grâces nécessaires, mais nous ne sommes pas à son écoute. Alors, il y a quand même la perte du silence. Dieu parle dans le silence. C'est un fait fondamental. Dieu parle dans le silence. Si nous ne sommes plus dans le silence, nous ne pouvons pas l'entendre. Et donc, Dieu parlant dans le silence, il continue à parler. Il parle de la même façon. Il parle avec autant d'efficacité. Et nous voyons que ceux qui le recherchent dans le silence le trouvent et font des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, c'est le brouhaha. Bon, vous ne pouvez pas entendre. On ne peut pas entendre le bon Dieu. Il nous parle parce que le bon Dieu continue. Il est. Il bouge pas, le bon Dieu était essentiellement immuable. Donc il continue à donner sa grâce ou sa révélation aux hommes. Mais les hommes s'en détournent, passent à autre chose. Très typique l'attitude de Ponce Pilate. Notre Seigneur commence à lui parler de la vérité. Ponce Pilate lui dit qu'est-ce que la vérité et il sort. C'est le monde moderne.
Il zappe
intellectuellement, moralement, spirituellement. Et donc, notre Seigneur est prêt à lui parler, il s'en va. Donc notre Seigneur ne peut pas lui révéler. Et un degré en dessous, il y a Hérode. Notre Seigneur ne lui parle même pas parce que Hérode, lui, ne lui pose même pas la question qu'est-ce que la vérité. Donc ça, là, c'est le degré en dessous, c'est les mauvaises mœurs à l'état pur, etc. Mais Pilate, qui est l'homme moderne par excellence, l'homme de certaines bonnes volontés, il voudrait pas faire du mal après tout, pourquoi.
Il a sa femme derrière qui lui dit donc, tu devrais faire attention.
Voilà, hein, etc. Mais Pilate sera un lâche face aux médias, contrôlé par qui nous savons. Et deuxièmement, Pilate est un homme qui n'est pas prêt à aimer la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Notre Seigneur commence à l'embrayer dans une discussion qui va le mener à des choses qui peuvent le remettre en cause, etc. Il arrête, il passe à autre chose, les considérations politiques, etc. Et c'est très typique. Et donc, le bon Dieu parle, mais nous ne l'entendons pas. Donc, les signes sont toujours les mêmes, mais ils ne sont plus perçus, puisque, encore une fois, le signe, il existe soit dans un bon sens, soit dans un mauvais sens. Et finalement, lorsqu'on va parler d'une épidémie de maladie, etc., il y a certainement un signe, mais il ne veut pas être décrypté. Au contraire, il est décrypté dans le mauvais sens, puisqu'il faut que le sida se propage. Pour vous donner un exemple très typique, nous avions une personne qui travaillait chez nous et qui en fait s'est révélée être un homosexuel. Bon, nous en sommes séparés. Eh bien, lorsque ses amis homosexuels ont appris qu'il avait le sida, ils ont fait la fête. Voyez-vous, c'est un épisode tout à fait authentique dont je vous parle, une personne très précise.
Dans la version,
Alors, il y a une chose qui est quand même, je trouve, frappante, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'histoire d'amour au centre du Titanic. Eh bien, dans le cinéma, il n'existe d'histoire d'amour que dans les débuts, dans les commencements. L'amour, c'est toujours un coup de foudre, c'est toujours une rupture avec... Alors, on quitte ses enfants, on quitte son métier, on quitte son mari, on quitte sa femme, etc. Bon, c'est la religion des débuts, la religion du coup de foudre. Alors qu'au contraire, dans l'Évangile, dans les noces de Cana, c'est à la fin qu'on boit le meilleur vin. Voilà. Et on a bien l'impression que l'amour conjugal, il n'est finalement jamais si heureux qu'à la fin de l'amour plutôt qu'au début de l'amour.
C'est le monde de la rupture. C'est le monde de la rupture systématique et non pas...
Et c'est précisément ce que refusent les modernes et qui est typique de cet anti-mystique moderne, c'est que l'amour, il est devant et pas derrière. Il se construit jour après jour, il a une fidélité. Dieu reproche fondamentalement au peuple d'Israël son infidélité. C'est une infidélité à l'égard de la promesse constant que Dieu lui a faite et que le peuple juif lui a faite. Et cette infidélité, Dieu dit toujours, je t'ai recueilli dans le mal. Tu étais, bon, il y a toutes ces symboliques, etc. Tu n'étais pas lavé, etc. Enfin, c'est très beau dans le prophète Osée, etc.
Magnifique.
Voilà. Mais donc, Dieu ne reproche pas le passé. Il reproche l'aujourd'hui et le futur. De ne pas être fidèle à cette alliance ou de n'y pas revenir, car Dieu offre toujours cette possibilité de revenir. Donc, l'amour, le vrai, véritable amour spirituel est devant. Il se construit jour après jour. Il est évident que, je dirais, où est le véritable amour? Est-ce le coup de foudre ou est-ce les gens qui 50 ans, 60 ans ont cheminé ensemble et ont construit une famille?
Le don est progressif.
Voilà.
La prédation est rapide.
Voilà.
Et nous sommes actuellement, avec les mœurs modernes, en état de prédation. Nous voyons une personne, elle nous plaît, il faut immédiatement qu'on la possède. C'est ça, actuellement, que l'on voit s'étaler dans tous les écrans. C'est exactement le contraire de l'amour.
Et ça, cette idée de la prédation généralisée, c'est vraiment ce qui ressort de votre
livre. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et qui se trouve effectivement au point de vue
économique. On est en train de manger l'autre au lieu de se donner à lui.
C'est ce que font les sodomites vis-à-vis des deux anges qui sont là, qui sont des vampires goulus et qui veulent dévorer les personnes qui sont en face.
Les sodomites, pas les anges.
Les sodomites.
Dans l'épisode de Sodome et Gomorre. Il y a une espèce de passage initiatique nécessaire pour toutes les stars, surtout quand leur carrière commence à vaciller un petit peu, comme Antoine de Caunes, qui est un homme particulièrement haineux à l'égard de la foi catholique, eh bien, il faut qu'il joue un rôle de travesti. Il faut qu'il...
C'est une espèce de
dîme à payer pour faire partie de...
Le sida, l'homosexualité, c'est effectivement le symbole, le renversement. On est toujours dans la morale du renversement.
L'inversion.
Voilà, de l'inversion, du renversement. Le renversement de toutes les valeurs.
Diable étant le singe de Dieu.
Voilà, c'est ça.
Mais vous avez évoqué quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je lisais un livre qui est, je n'ai pas le nom des auteurs en tête, traduit des anglais, et il y a en particulier les commentaires rabbiniques sur Sodome et Gomorre.
Oui.
Et en particulier, il y a les commentaires rabbiniques valent ce qu'ils valent. Hein. Ce ne sont pas paroles d'évangile, Dieu merci. Mais il y a une chose intéressante, c'est que les sodomites faisaient étendre tout étranger sur un lit d'une certaine longueur. Tout ce qui dépassait, ils le coupaient, sinon ils tiraient jusqu'à la désarticulation.
C'est comme Procuste. C'est exactement la même chose que Procuste.
Alors bon, tous les mythes interfèrent un peu entre eux. Mais c'est intéressant parce que c'est exactement le symbole de notre époque où l'on veut réduire les hommes à la même dimension.
C'est la norme européenne.
Ça me semble très important.
Très important et essentiel.
Voilà, monsieur l'abbé, je voudrais vous remercier parce qu'on pourrait continuer encore, toute la nuit. Oui, François, docteur Planté, je vais vous donner la parole tout de suite. Que ce soit moi. Je vais le dire. Je vous remercie d'être venu. On va refaire ces émissions, enfin ce genre d'émission, une fois par mois sur ces sujets-là. Et je serais content de vous y accueillir. Monsieur l'abbé Cellier, j'aimerais bien que vous reveniez en tant qu'autorité spirituelle. Vous nous éviterez les égarements du
dangereux
occulto-gnostique. Voilà. Éric Lebec, merci. Monsieur l'abbé Cellier, merci. Alors, ce soir, vous avez présenté le livre de Jean-Pierre Dickens, La blessure, qui est un bouquin formidable, je le dis vraiment, alors là, parce que c'est un outil de connaissance des mécanismes de la subversion d'une force qui n'a jamais été atteinte. Je crois qu'on n'a jamais exprimé les choses d'une façon aussi vraie, aussi lumineuse
et aussi simple. C'est agréable à lire,
sans discours.
Parce que ça fait 220 pages, tout le monde peut le lire et c'est animé, disons, mais en même temps, c'est très riche de réflexion, je pense, et de lumière.
Éric Lebec lui a évoqué son livre Le journal d'émission du Père Menoir, le journal d'émission dont il a fait l'appareil critique, qui est passionnant aussi parce que ça montre la réalité d'une province française dans ses relations avec la foi la plus si j'ose dire, la plus matérielle, enfin les manifestations les plus matérielles de la foi. C'est un livre passionnant aussi. Le livre d'Alexis Sarrette, les livres d'Alexis Sarrette, alors celui-là, c'est les dieux du crépuscule, à lire de toute urgence. Un grand, grand livre, extrêmement politiquement incorrect. Hein. On a été, nous, d'une prudence dans l'évocation, formidable. Et alors sur... Le complot, alors là, vous avez des pages qui sont définitives, je n'en dis pas plus. Il est paru chez Godefroy de Bouillon, Alexis Sarrette, Les dieux du crépuscule, et c'est un livre qui vaut 150 francs, ce qui est...
Serge, est-ce que vous pouvez passer une petite annonce
bien
sur,
sûr, alors,
l'Alliance sociale.
L'Alliance sociale organise une journée d'études le samedi 25 avril près de Nantes sur l'agriculture biologique. Pour information, contactez le secrétariat de l'Alliance sociale, 22 rue de Bellechasse, 75 007 Paris, téléphone 01 45 55 57 14, 01 45 55 57 14. Ça sera sur le Minitel du Libre Journal, 36 15 Libre Journal, je le signale. Le docteur Plantet, merci, vous n'avez pas d'ouvrage à présenter, ce qui au fond vous exonère de tout soupçon d'intérêt personnel. Eh ben non, pas du tout, parce que il a quand même un message, le docteur Plantet. Il dit: pourriez-vous éventuellement faire savoir que le père Marie Benoît cherche un professeur de mathématiques pour ses élèves de 5e et 4e. Alors c'est à Laguiche.
C'est à Laguiche, en Saône-et-Loire, pas loin de Paray-le-Monial.
En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, tout près de Paray-le-Monial, c'est à 2 heures de Paris.
À 2 heures de Paillet, c'est une sorte de forteresse bénite.
C'est un endroit
protégé par les anges.
Le village
où la gnose ne rentre pas son pied gluant.
Voilà. Gnose toujours, tu m'instructionnes, voilà. Bien sûr. Et le père de Marie Benoît fait partie de ces hommes dont on se félicite qu'ils soient présents dans le monde, parce que ça aide à faire passer pas mal de choses. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. On a un autre de ces hommes ici parmi nous que je remercie encore de s'être joint à nous. Merci.
Merci.
Alors, pour le prof de maths 4e, 5e, qui pourrait aller donner des leçons à des enfants
à
Laguiche, en Bourgogne, à 2 heures de Paris, on peut me téléphoner au Libre Journal pour avoir les précisions, les adresses et le numéro de téléphone. Merci. Messieurs, au revoir. Je rappelle que le livre d'Alexis Sarrette est paru aux éditions Godefroy de Bouillon, que le livre de Jean-Pierre Ducasse est paru aux éditions Clovis, et que le livre d'Éric Lebec, je ne l'ai pas dit, est paru aux éditions de Paris, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, le livre du Père Mounoir, en fait.
Le livre du Père Mounoir.
Voilà.
Merci à tous.
Je rappelle aussi...
C'est pas fini, on va encore recevoir du monde.
C'est dans le même... les livres, ce que l'on vous cache de Jean Madiran, qui était aux éditions de Présent, 5 rue d'Amboise, et qu'on peut avoir à 10 francs livre, boîte postale 13, 78 580 à Moule. À propos, justement...
Oui, vous faites un blanc, là, ma cocotte.
Je fais pas un blanc.
Pendant que je fais mes salutations à tout le monde.
Je suis un peu troublée par les salutations à propos des élections. Donc, à propos des élections, quelqu'un revient en nous disant que ça y est, Monsieur Soissons a démissionné, mais il a dit qu'il se représenterait avec d'autres alliances.
Eh ben, c'est très bien, c'est encore mieux. Alors
voilà.
Donc Monsieur Soissons.
Tout est possible pour Monsieur Soissons.
Monsieur Soissons a disparu comme un pet de lapin sur une toile cirée. Comprenne qui peut.
Je peux rappeler aussi le livre de Jean-Pierre Dickès, La blessure, aux éditions Clovis, 98 francs. Qu'on peut avoir par correspondance à Clovis, boîte postale 88, 91 152 Étampes Cédex, ou en librairie, à la librairie Saint-Nicolas. Vous trouverez ça dans le 3615 Libre Journal. Vous pourrez aussi y poser des questions que vous n'avez pas pu poser. Et il y a un auditeur là qui vous dit pendant l'émission: merci, bravo pour votre émission, c'est une véritable soupape de sécurité pour beaucoup d'entre nous. Merci.
Alors, il pose la question aussi de savoir si on ira à la mer agitée. Non, on ne va pas ce soir à la mer agitée, mais je signale que à partir de demain, pour 15 jours, la mer agitée fait une quinzaine corse. Donc, elle fera de la cuisine corse. Là, on ira forcément la voir. Et on ira peut-être même demain soir, parce que demain soir, elle va recevoir l'excellent docteur Merlin qui va chanter et qui va commenter l'actualité. J'irai peut-être lui donner un petit coup de main pour commenter l'actualité. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. Alors évidemment, il faudra montrer patte blanche avant de nous rejoindre. Voilà, demain, la mère agitée, c'est 21 rue Campagne Première, et le numéro de téléphone, je ne l'ai naturellement pas, mais c'est toujours pareil, c'est sur le 3615 Libre Journal, vous le trouverez, et
puis
c'est
tout. Voilà. Consultez 3615 Libre Journal.
On va peut-être, il nous reste, oui, 7-8 minutes, on va tout de suite donc donner la parole à Stéphane de Coët-Parquet, qui est le fondateur de Pactum. On en a déjà parlé, mais j'aimerais que vous résumiez ce qu'est Pactum.
Eh bien, merci de me recevoir à nouveau. Pactum, c'est donc un réseau interprofessionnel catholique. Donc, en deux mots, on va répéter ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que c'est un réseau, c'est-à-dire qu'il nous permet de travailler ensemble et de resserrer les liens qui nous unissent déjà. Il est interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il compte toutes les compétences professionnelles à la fois, on peut aller du petit salarié d'entreprise jusqu'au grand patron, mais aussi on compte des stagiaires étudiants jusqu'à des retraités qui ont toujours des compétences professionnelles. Et il est catholique, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux catholiques qui sont fidèles à l'Église, à son enseignement, et à sa doctrine sociale.
C'est un lobby catholique, quoi.
Ça n'est pas
un lobby dans les affaires.
Ça n'est pas un lobby parce que le lobby est un terme qui n'appartient pas à notre culture. C'est une union recommandée par la doctrine sociale de l'Église, puisque Pie XI nous enseigne dans Quadragesimo Anno, ne permettons pas que les enfants de ce siècle paraissent être plus habiles entre eux que nous, et qu'ils s'unissent donc tous les hommes de bonne volonté, que tous s'efforcent d'apporter quelques contributions à l'œuvre de restauration sociale chrétienne. C'est dans cette union que nous voulions amener les catholiques, les professionnels catholiques.
Il y a 3 mois que vous êtes vraiment en activité constante. Quel est le bilan aujourd'hui de ces 3 mois?
Eh bien, en 3 mois, nous comptons aujourd'hui à peu près 500 inscrits. Donc, nous avions fait une longue étude préliminaire, comme on apprend dans les écoles de commerce, avant de nous lancer. On est largement au-dessus de nos espoirs. Nous comptons aujourd'hui une dizaine de recrutements en cours, puisque le recrutement est un de nos services. Nous cherchons des employés, nous cherchons des secrétaires, nous cherchons des responsables de marketing, nous cherchons des traducteurs. Bien sûr, tous les jours, nous nouons des liens, c'est-à-dire que nous faisons vendre et nous faisons acheter nos inscrits les uns vers les autres. C'est-à-dire que nous faisons vendre, ça peut être du vin, des bicyclettes, des patins à roulettes, mais aussi des services. Donc nous envoyons des affaires à des assureurs, à des avocats, à tous les métiers du monde.
C'est-à-dire qu'on s'adresse à vous si on veut acheter quelque chose ou si on veut vendre quelque chose, et vous mettez en relation les vendeurs et les acheteurs.
Exactement, on fait même un petit peu plus, c'est-à-dire que les gens qui nous appellent veulent acheter des services des produits, et nous négocions auprès des vendeurs des tarifs préférentiels, c'est-à-dire que ces acheteurs achètent à tarif négocié, à tarif plus bas, auprès de ces vendeurs qui sont donc qui partagent des valeurs de fond que sont celles de la doctrine sociale de l'Église et d'Église.
Quand on a besoin de vous, on vous contacte comment? Quand on vous voit, on vous aime, et quand on vous aime, où vous voit-on, selon le...
Eh bien, écoutez, on a un numéro de téléphone, on a un fax, bientôt un service Minitel. Donc, pour le numéro de téléphone, il faut nous appeler au 02. Nos services sont en province, 97 75 28 28. Nous avons un numéro de fax, le 02 97 73 74 41. Et bientôt un service Minitel, mais nous communiquerons là-dessus très bientôt.
Ça, vous reviendrez pour nous raconter comment se passe le Minitel. Moi, le Minitel, c'est un truc qui me fascine. Je trouve que c'est un outil négligé naturellement par la famille, parce que c'est probablement démoniaque. C'est quelque chose de très vilain, étant donné que ça fonctionne à l'électricité. Si on avait pu inventer un Minitel qui marche à la bougie, on aurait certainement des amis qui seraient intéressés, mais à l'électricité, c'est douteux, comprenez ? C'est comme le téléphone. Voilà. Et alors, l'Internet, n'en parlons pas, parce que l'Internet, Internet, vous savez, c'est épouvantable Internet, parce que dessus, vous avez des nazis et des pédophiles. C'est-à-dire que il y a des propos nazis et des propos pédophiles qui sont tenus sur l'Internet. Je signale aussi, d'ailleurs, que c'est la même chose avec le papier. Hein. Donc, on devrait interdire les livres, parce qu'on peut aussi faire des livres pédophiles et des livres nazis. Et on a même fait des livres pédophiles et des livres nazis avant de faire des émissions, enfin des programmes sur Internet. Voilà, parce que tout ça pour dire que quand même, il faudrait un peu se secouer les neurones de temps en temps. Sans ça, on va vite se retrouver cro-magnonisé. Merci Stéphane de Côte-Parquet, je vous ai bousculé un peu, mais l'essentiel c'est que vous puissiez faire savoir que vous existez bien, que ça marche, que ça vit, que ça progresse, et que si on appelle au 02 97 75 28 28, on avance.
Merci beaucoup.
Je tourne maintenant vers Marguerite Toutrebande, pardon, j'ai eu un moment de faiblesse intellectuelle, c'est pas le premier. Lundi 30 mars 98, Palais de la Mutualité.
Oui, on fait une grande réunion sur le linceul de Turin. Je pense que vous connaissez, maintenant tous vos éditeurs connaissent bien le linceul de Turin. C'est le 100e anniversaire de la découverte photographique du linceul. En avril 98, il y a une grande ostension entre avril, 18 avril et 15 juin. Grosso modo, je n'ai plus la date en tête. Et donc, vous savez que notre association depuis 10 ans œuvre à l'authenticité, je crois qu'on peut vraiment le dire, l'authenticité du linceul. Tous les scientifiques internationaux de tout pays et de tout crin ont travaillé et continuent à travailler sur ce linceul. Et bon, je crois que le faisceau de
oh, bon, je crois que maintenant la question se pose,
oui,
même plus.
Oui, se pose même plus. Je crois que
la question qui se pose, c'est celle du sens de ce signe.
Voilà, c'est la question effectivement qu'on pose. C'est la question à laquelle on répondra, on tentera de répondre lundi à 20h30, lundi 30 mars à 20h30 à la Mutualité, puisque nous organisons une grande réunion dont le thème central est le linceul de Turin, témoin de la passion du Christ. Je pense qu'on est dans la période en plus favorable pour se pencher sur le linceul de Turin, puisqu'on sera la semaine de la passion, lundi de la passion, et il y aura une partie historique avec deux interventions de Monsieur Raffard de Brienne. Là non plus, il n'est plus à présenter. C'est vraiment un des grands vulgarisateurs du linceul de Turin
qui vient de rééditer son livre.
Voilà, Enquête sur le Saint-Suaire, édité chez Perrin et Perrin. Voilà, donc lui, je ne le présente plus, le président du CIELT. Jean-Marie Desotard qui fera une présentation des représentations du Christ et du linceul. Et puis, deux interventions très très intéressantes. Une première du docteur Mera, qui a pris les chaussures du professeur Barbet sur l'enclouage. Et puis, la conclusion du professeur Pourra, là aussi, sur la mort sur la croix. Il fera le rapport entre le linceul et la mort sur la croix. Donc, je venais très, très nombreux à cette réunion.
Je crois que c'est un moment important. Il faut y aller.
Voilà, et le ciel, en fait,
j'y serai parce que c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Je pense que le Saint-Suaire, c'est tout simplement le cinquième évangile et qu'il faut en assurer promotion, comme on dit.
Moi, j'avoue que mon grand dada, et c'est pour ça que je m'en occupe, notre siècle est un siècle de l'image, siècle de la... Et vraiment, le Christ est là pour nous répondre. Vous voulez m'oublier, mais je suis là.
Voilà. Merci Marie-Alix, merci Stéphane de Côte-Parquet. Toutes ces indications sont, encore une fois, dans le Minitel Libre Journal, 3615 Libre Journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je vous supplie de penser à vous abonner au Libre Journal. C'est vraiment pour nous vital. L'adresse est 4 Place France Liste, 75010 Paris. Je ne serai pas là la semaine prochaine, ce sera Bernard Lugan qui présentera son émission. Je vous dis donc dans 15 jours. D'ici là, que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 25 mars 1998, rediffusée dimanche 6 décembre 2009 dans la nuit de 2h à 5h. Elle a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.